Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. On va donc commencer cette dernière table ronde de l'année 2019. Pour 2020, reportez-vous pour l'instant à l'agenda emf.fr, rubrique créativité et territoire, et vous y trouverez un certain nombre de visites créatives d'entreprises, de contacts. On a un projet notamment aussi avec Marie Ferru qui va nous rejoindre, d'une rencontre avec des entreprises en début janvier sur le problème de l'international, puisque avec Marie qui était venue l'autre jour, on a échangé un peu là-dessus. Elle a un master qui est justement dédié à cette ouverture à l'international. Donc on a quelques entrepreneurs intéressés par ça. Et vous savez que nous essayons d'avoir un regard sur l'environnement des entreprises créatives, entre guillemets, du Poitou, de l'ex-Poitou-Charente. Voilà. Bonjour. Et puis je vais donner tout de suite la parole à Michel Jarassier, pardon, vice-président de la communauté de communes Vienne et Gartempe, en charge de la santé, maire du Son du Poitou et cadre de santé au centre d'addictologie de Pérou. Donc parfaitement l'homme idoine pour introduire cette conférence, j'ose dire. Il est accompagné de Cécile Bonneau, chargée de mission santé, mais qui vient tout juste d'arriver. Donc voilà, l'essentiel, c'est qu'on vous connaisse. Donc je vous laisse la parole à tous les deux. Et puis... Alors le principe, c'est de parler dans le micro, oui, parce qu'on enregistre.
D'accord, je vais être sérieux. Alors. Donc bonjour à tous. Alors, par contre, comment je retrouve mon... Oui, j'ai juste fait quelques diapos pour vous présenter un petit peu ce qu'est ce qu'est Vienne et Gartempe. Michel Jarassier, donc je suis accompagné de Cécile Bonneau, que je remercie d'être présente. Et puis même si elle n'est pas là, je crois qu'elle avait dit qu'elle passerait. J'ai travaillé aussi pendant 6 ans avec Béatrice Arand, que je tiens à remercier, parce qu'on a fait un travail considérable. Elle est partie sous d'autres cieux, mais maintenant elle gère les assistantes sociales au CHU. Donc tous les documents qui sont ici, ben, c'est aussi grâce à son travail. L'élu, il est là pour accompagner, mais souvent c'est les chargés de mission qui bossent beaucoup. Donc Cécile, bienvenue, ça fait 5 semaines qu'elle est là. Il va falloir qu'elle me supporte encore quelques mois. Je suis aussi maire du Son du Poitou, une commune de 1350 habitants située dans le sud de Vienne et qui fait partie de la communauté de communes de Vienne et Gartempe. Vienne et Gartempe, c'est une grande étendue, cette communauté de communes, qui représente 55 communes, 42 000 habitants environ. La distance d'est en ouest est de l'ordre de 70 km et du nord au sud, peut-être pas loin de 100 km. 55 communes avec une commune un peu plus importante, hein, qui est Montmorillon, et puis des communes qui, après, tournent à 2000 habitants, 2500 habitants, et après, c'est des communes, il doit y avoir 5 ou 6 communes qui ont plus de 1000 habitants, autrement, c'est des communes à moins de 1000 habitants. Cette communauté de communes, elle est issue d'une fusion de l'ancienne communauté de communes du Pays Montmorillonnais et de la communauté de communes du Lussacois et des communes du Chauvinois et de Val-de-Gartempe-et-Creuse. Je ne vais pas rentrer complètement dans les détails. Cette communauté de communes, c'est la loi NOTRe, hein, en cours de mandat, qui s'est constituée de cette façon-là. C'est à peu près un tiers du département de la Vienne, hein, presque. Donc vous voyez, c'est quand même grand. Avec peu d'habitants. L'histoire, elle est commencée par rapport, puisqu'on m'a dit de parler des choses un peu innovantes. Alors, je ne sais pas si c'est innovant ce qu'on a fait, mais on a essayé de dynamiser le territoire. L'histoire, elle est commencée en fin 2012, où on avait été sollicité à ce moment-là par le directeur territorial de l'ARS, qui nous avait dit que ça serait bien que vous fassiez un contrat local de santé, puisque les élus, on était toujours en train de pleurer, et pleurent beaucoup les élus. En disant ouais, mais on n'a plus de médecins, on n'a plus de, y a plus de soignants, etc. Et il a dit, bah, écoutez, c'est pas une solution, mais ça peut être un moyen pour donner un peu d'impulsion à votre territoire. Donc on avait commencé à construire une phase de diagnostic qui a duré bien pendant une année, qui avait été justement menée par la chargée de mission, Béatrice, où elle avait rencontré tous les professionnels de santé, un diagnostic avec tous les professionnels de santé, tous les élus et aussi la population, donc avec des thèmes précis. Donc il y a eu un diagnostic long, très précis, qui avait été fait, et qui a conclu en fin 2013, au mois de décembre, la signature du contrat local de santé avec, bien sûr, l'ARS, la préfecture, enfin, l'État et le syndicat mixte du pays Montmorillonnais, à ce moment-là, qui représentait le Lussacois et la communauté de communes du Montmorillonnais. Donc on avait signé ce contrat local de santé. Moi, je vous avoue que, bien qu'étant du milieu de la santé, quand on a commencé à travailler sur ce dossier-là, je ne voyais pas trop où vous voulez en venir. Quoi. Je me disais, tiens, encore peut-être une usine à gaz. Mais finalement, la répercussion, on l'a vue après. 2014, nouvelles élections, la communauté de communes s'engage et prend la compétence santé. C'était un acte fort en disant on a un réel problème de santé, de désertification médicale, mais pas que médicale, aussi pour certaines professions paramédicales. Et puis, la communauté de communes a commencé à faire des actions, alors des actions de promotion du territoire. Et je ne sais pas, oui, voilà. Là, c'était pour vous montrer. C'était la communauté de communes. Voilà. Vous voyez, donc il y a peut-être des noms qui vous disent quelque chose. Saint-Savin, l'abbaye de Saint-Savin, hein, donc patrimoine de l'UNESCO. Parce que des fois, on l'oublie même dans notre département. C'est les diagnostics qui ont été faits, hein, l'offre médicale qui, on voit aujourd'hui, est située que sur des pôles un peu plus importants. Alors bien sûr, Montmorillon avec l'hôpital, sachant qu'aujourd'hui l'hôpital est un pôle du CHU, ce qui a permis à l'hôpital de Montmorillon de continuer à vivre, même si on peut penser que la fusion a été très difficile pour le personnel, et ça j'en suis parfaitement conscient. Mais en tout cas, ça a permis de maintenir sur le territoire un pôle de santé avec les interventions des différents praticiens et chirurgiens de Montmorillon, du CHU de Poitiers, et en construction aujourd'hui d'un service plus neuf de médecine, de deux blocs opératoires. Donc il y a vraiment, sur ce secteur-là, c'est un élément moteur pour notre territoire. Et puis après, des médecins un petit peu disséminés partout, enfin surtout sur les communes qui étaient peut-être les anciens chefs-lieux de canton. Alors pas tous, parce que moi je suis à Husson, l'histoire a fait qu'on était découpés sur l'ex-canton et l'autre comité de communes. Mais en tout cas, avec des disparités énormes. Ici, on a une frange, on va dire que cette frange-là, je ne sais pas si vous voyez. On va parler de Valdivienne, Verrières, Husson. On arrive à peu près, surtout sur le pays chauvinois, là, ils arrivent à peu près à avoir les répercussions du dynamisme de Poitiers, enfin du Grand Poitiers. Et après, des zones qui se situent sur la partie en dessous, enfin la Trimouille, Sud Montmorillon, Lisjourdain, Availle, qui souffrent d'une extrême désertification et où on sent que les professionnels de santé sont moins engagés d'aller à 1h30 de Poitiers que d'aller à Valdivienne ou Civaux, où on est à 20 minutes de Poitiers. Les médecins, donc vous voyez, c'est une situation en 2018. Alors, la situation, quand on voit comme ça le nombre, elle n'est peut-être pas catastrophique. Ceci dit, après, quand on prend les âges des médecins, là, on s'aperçoit que c'est vite problématique. Alors, avec des belles expériences, vous voyez Adrier, qui est une petite commune ici, où la communauté de communes a porté un projet de maison de santé multi-site, donc avec une maison de santé qui a été construite à Lisjourdain et une à Adrier, où là, il y a eu à Adrier, alors une belle expérience, parce qu'il y a eu un recrutement d'un médecin, d'une jeune médecin d'origine belge, hein, qui voulait travailler en France. C'était un travail de longue haleine, c'est-à-dire 2 ans de négociations, de concertations, de rencontres, pour qu'elle puisse s'installer. Elle s'est installée. La communauté de communes a eu un travail assez intéressant, puisque le compagnon de cette jeune médecin est aussi agriculteur et éleveur. Donc, le secteur économique a pu accompagner le compagnon et puis accompagner aussi le médecin. À côté, une expérience qui aujourd'hui est plutôt négative, je dirais. On a fait appel à des cabinets de recrutement. On avait recruté une médecin qui était d'origine roumaine, pour qui tout se passait bien au début, et puis qui va nous quitter là, certainement en fin d'année, pour aller sous d'autres cieux. Ce qui montre que comment dirais-je, les actions pour essayer de revitaliser le monde médical, il n'y a pas qu'une action. À mon avis, il y a plein de choses qui vont être en fonction du territoire, en fonction de l'arrivée de certaines personnes qui vont se sentir bien dans le territoire. Et puis, je sais que Cécile, qui est son premier job quand elle est arrivée, c'était, comme on le fait deux fois par an, d'aller à la fac de médecine au moment du choix des internes pour présenter notre territoire. Elle a bien ressenti que des fois, il ne fallait pas grand-chose pour accrocher. Parce qu'à un moment, ils vont peut-être venir en remplacement. Ils vont trouver que l'univers est peut-être sympa, que le maître de stage a une conception de la médecine assez intéressante ou proche de leur philosophie. Et puis, c'est un endroit agréable à vivre. Et je pense qu'il faut qu'on insiste vraiment là-dessus pour essayer d'accrocher des nouveaux professionnels. Je suis de moins en moins sûr qu'il faille donner des grosses sommes d'argent pour faire venir les médecins. J'ai évolué. Non, en plus, j'étais récemment sur un congrès national où j'ai vu des collègues, notamment dans le Var, proposer 50 000 euros sur des installations de médecins qui sont partis 2 ans après, quoi. Voilà, donc après, je pense que à mon sens, ce n'est pas comme ça qu'on peut accrocher. Bon, là, c'est un petit état des pharmacies. Là aussi, on est en déprise de pharmacies, mais ça, c'est au niveau national. On sait qu'on perd généralement à peu près une pharmacie par semaine. Alors là, souvent, c'est des regroupements, mais chez nous, ce n'est pas que des regroupements. On a aussi des pertes de pharmacies. On voit bien qu'on a des zones qui sont nettement blanches. Et ce qu'il faut penser, c'est que sur notre zone du côté de la Trimouille, on est sur la région de l'Indre. Il faut quasiment aller au blanc, hein. Et puis, quand on est en dessous Adrier, on est sur la zone de la Haute-Vienne. C'est Bussière-Poitevine, certains connaissent, qui sont aussi dans des conditions médicales et paramédicales un peu catastrophiques. Et quand on est en dessous Availle, on va à Confolens. Et Confolens, malgré certainement le dynamisme de l'hôpital, il y a 3 médecins généralistes qui sont partis à Confolens. Voilà, donc ça, c'était le contrat local de santé dont je vous ai parlé. Alors, ce contrat local de santé, quand on l'a travaillé au début, on se demandait un petit peu ce que c'était. Et puis après, au fur et à mesure, quand on a commencé, donc dès 2014, à le mettre en application, on a eu des retours. Donc, on a eu beaucoup... les acteurs sociaux, sanitaires, etc., tout le monde a joué le jeu. Je pense qu'il y avait un réel besoin de réunir tout le monde pour que... Alors, certains se connaissent très bien, et puis d'autres ont entendu parler ou ne savaient pas trop ce que faisait l'autre. Et finalement, le fait de rassembler tous ces acteurs a fait qu'il y a eu une connaissance beaucoup plus précise. Ils se sont aperçus que des fois, ils faisaient des choses qui étaient peut-être un peu redondantes, tout au moins sur les mêmes thèmes, mais qu'en se fédérant, peut-être ils pouvaient faire des choses qui étaient certainement beaucoup plus positives et beaucoup plus dynamiques. Donc, ça a été vraiment les retours, en tout cas. Le premier retour qu'on a eu du contrat local de santé, c'était le retour des professionnels en disant « c'est bien votre truc ». Donc, ça a continué. Donc là, on est sur la deuxième mouture, enfin la deuxième vie du contrat local de santé où, quand on fait des réunions avec les acteurs, on est facilement 60 personnes. Alors, vous allez me dire 60 personnes, peut-être qu'à Poitiers, c'est pas beaucoup. Quand on est à Montmorillon, c'est beaucoup. Surtout quand on fait 80 bornes pour venir. Donc, en tout cas, et toujours avec plein d'idées. Et au fur et à mesure, justement, le contrat local de santé, c'est un outil, mais qui peut vivre que par les acteurs, les élus. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. On est là pour être facilitateur. Et finalement, on s'est aperçu que tout le monde avait plein d'idées. Bon, il a fallu un petit peu fédérer tout ça. On a commencé par faire un forum santé. On a fait plusieurs. Et puis faire des semaines de la santé. Alors c'était peut-être un petit peu pour ça qu'on m'avait demandé, invité, parce que c'était innovant. Alors la semaine de la santé, c'est vrai que c'est parti des acteurs, ils ont dit « Ah, ça serait bien qu'on fasse des actions, et puis qu'il y ait une lisibilité. » Alors après, on s'est dit « peut-être qu'on pourrait faire une semaine. » Alors la première année, on a fait une semaine de santé, la semaine de la santé, et en même temps un forum santé. Bon, c'était très lourd à porter. On s'est aperçu qu'il n'y avait peut-être pas d'intérêt et on a dédoublé les choses. Une année, on faisait la semaine de la santé et l'année d'après, le forum santé. La semaine de la santé, l'idée... J'ai dû me faire une diapo aussi là-dessus. Ça, c'était un peu pour voir l'évolution. Ça, c'est des semaines de la santé il y a, en 2017. Après, à la communauté de communes, on a aussi un service communication qui s'est développé et qui nous a permis de faire, alors j'ai mis cette photo, mais d'avoir une communication totalement différente. C'était important parce qu'il faut essayer de toucher un maximum de population. C'était tout public. Les objectifs de l'événement, c'était alors proposer une sensibilisation générale. Et puis, on ne voit pas le reste. J'ai dû faire ça avec OpenOffice. Valoriser les acteurs médico-sociaux et les institutionnels. Et puis, poursuivre le rendez-vous annuel. Parce que comme on avait commencé une action pour être visible, l'idée, c'était de continuer cette action pour que ça s'ancre dans l'esprit des gens. Tiens, il y a une semaine de la santé. Aujourd'hui, c'est bien ancré, puisque cette année, on est en préparation. Alors, ça ne sera pas une semaine de la santé, ça va être un forum santé. Parce que la dernière semaine de la santé, on s'est aperçu qu'en faisant une semaine de la santé tout public, il n'y avait pas forcément de gros retours, on n'avait pas forcément l'impression d'avoir un impact. Alors ça, c'est les retours des acteurs qui nous ont dit, finalement, on pourrait peut-être faire un forum, et puis avec un thème précis. On s'était aperçu les années passées que les jeunes étaient venus sur un forum santé juste un après-midi, et on avait été débordés par tous les écoles primaires, les collèges, les lycées, on a 3 lycées sur le secteur. Et on s'était dit que c'est peut-être l'intérêt, c'est de cibler le public pour essayer de redynamiser un petit peu tout ça. Donc cette année, on va cibler cette semaine de la santé sur, cibler cette semaine de la santé sur donc les scolaires et aussi le monde du handicap. Notamment, on a plusieurs IME et ESAT et des chantiers d'insertion. Donc, ça sera ciblé sur cette population-là. C'est la demande des acteurs. Et je pense qu'il y a vraiment une attente de tout le monde. Alors, simplement, la semaine de la santé, j'avais mis ce... Alors, on ne voit pas très bien, mais... pour vous montrer un petit peu toutes les actions qui peuvent être faites, l'idée, c'était d'être sur l'ensemble du territoire. Donc on va commencer par exemple par des activités physiques adaptées et il va y avoir alors je pense que on ne peut pas tout lire on va avoir une sensibilisation à l'alimentation, des lectures à haute voix, des randos santé, l'idée des activités physiques, mais aussi des conférences. On a eu des conférences animées par l'hôpital Laborie, notamment sur la bipolarité, sur la structuration de la psychiatrie au niveau départemental et au niveau national, l'intervention de Didier Tabuteau, professeur de santé publique que vous connaissez peut-être. Les thèmes sont vraiment très très variés. On s'aperçoit que il vient du monde. Alors des fois on a 30 personnes, des fois on en a 10, des fois on en a 3. À chaque fois les retours sont quand même extrêmement positifs. Alors on a toutes les associations de patients, que ce soit en cancéro, diabéto, etc., les dons d'organes, etc. Tout le monde vient présenter. Alors on essaie de gérer le temps et on va dire que sur ces 5 jours du matin au soir il y a toujours des activités, donc c'est peut-être ce qui fait l'originalité de cette semaine de la santé.
Et l'originalité aussi c'est qu'elle vient sur tout le territoire vraiment, donc elle permet à toutes les personnes, notamment ceux qui n'ont pas une mobilité très importante, de pouvoir y accéder.
Voilà. Alors moi je veux bien répondre à vos questions. D'abord, est-ce qu'il y a des questions ?
Parfait, oui. Moi, j'en ai une déjà, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous précisiez ça. C'est qu'il existe une fabrique santé-territoire ou territoire de santé en Nouvelle-Aquitaine, mais vous êtes quand même dans l'ex-Poitou-Charentes, la seule communauté de communes, me semble-t-il, à avoir cette démarche. Donc, ça serait intéressant que vous nous en parliez.
Oui, alors en compétences santé, oui, effectivement. Alors, je suis sûr que sur le département, c'est la seule communauté de communes qui a pris la compétence santé. D'ailleurs, c'est très marrant parce que. C'est très marrant. Je ne sais pas si c'est marrant. Au niveau de l'ARS, il y a une structure où justement les comment dirais-je, on travaille sur le plan régional de santé, etc. Une conférence et normalement les élus sont invités, mais il faut que ce soit les élus communautaires. Et pour pouvoir siéger, il faut au moins qu'il y ait 3 élus communautaires. Alors moi j'ai été élu par ma communauté de communes, mais malgré les sollicitations à toutes les autres communautés de communes du département, j'ai jamais pu faire élire quelqu'un. Donc j'ai jamais siégé. Alors j'ai siégé parce que le président est un homme charmant et qu'un médecin que je connais bien, il m'a dit bah, si tu vas être avec Béatrice et Cécile maintenant, on est invité. Mais par contre, on n'a pas de voix délibérative du fait qu'on puisse pas siéger. Alors effectivement, alors je sais pas. Je pense que alors autant le territoire d'à côté de chez moi, Poitou, le Civrésien en Poitou, c'est un territoire que je connais bien, bon, qui vient juste de s'engager sur un contrat local de santé, qui souffre certainement autant que nous. Le Loudunais, je suis allé sur le Loudunais pour présenter justement, je suis allé 3-4 fois pour présenter à mes collègues vice-présidents l'utilité d'un contrat local de santé. Ils ont démarré, mais la compétence santé n'est pas prise, et sachant qu'ils ont certainement au moins autant de problèmes qu'on peut avoir ici. On est toujours refermé sur nous-mêmes, hein. Surtout dans le Mont-Rionnais, on est toujours en train de se dévaloriser. Et puis finalement, quand on s'aperçoit, quand je suis monté dans le nord du département, un grand voyage, je me suis aperçu que, bah oui, ils étaient en souffrance médicale aussi de façon très très importante. Après, ce qu'on s'aperçoit, excusez-moi, c'est vraiment cette compétence santé, c'est deux choses, hein. C'est un engagement d'avoir une chargée de mission travaille essentiellement là-dessus, et d'avoir un élu référent, qui bosse aussi un petit peu. Donc, quelque part, on est reconnu, on s'adresse à nous, on a écrit, on vient de finaliser là, trois écritures de projets de santé, donc à Valdivienne, alors c'est pas une maison de santé à Valdivienne, il n'y a qu'un médecin, c'est une équipe
de soins primaires.
Merci. Qui vient d'être labellisée par l'ARS. À Usson, on vient d'écrire un projet de santé qui vient d'être labellisé. Et à Verrières, il y a l'écriture qui il a été envoyé à l'ARS, à grande chance qu'il va être labellisé. Alors, quand on dit ça, on se dit, bah, finalement, c'est quoi ces machins ? Ça, c'est une première étape pour pouvoir travailler ensemble, construire quelque chose, avoir des financements, s'inclure dans un processus. Et s'il n'y avait pas eu la compétence santé, ça n'aurait pas été écrit. Le problème aujourd'hui, quand on va voir les professionnels de santé et qu'on leur dit il faudrait écrire un projet de santé, ils vont dire on a autre chose à faire. Hein. Nous, on bosse, hein, on bosse. Alors l'avantage, quand on a la compétence santé, c'est que donc Cécile va être la plume. Moi, je dis souvent, elle va être la traductrice, c'est-à-dire du langage médical et paramédical en langage ARS. Langage ARS, c'est un langage. Les personnes de l'ARS. C'est un langage spécial. Voilà. Donc, faut du temps. C'est un des cadres très précis. Alors, ce qui est normal aussi, parce que derrière, il y a des subventions, il y a de l'argent public. Donc, c'est normal. Mais les professionnels de santé, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas le temps. Alors, certains l'ont fait avec on a quand même des exemples de maisons de santé, notamment vers Vendeuvre, qui sont anciennes et avec des gens dynamiques. Mais c'est porté par une personne. Souvent. Et là, ben là aussi, il faut. Donc, ça permet, la compétence santé, ça permet de créer un dynamisme et de fédérer les gens. Et on a vraiment des beaux exemples. Il y a des gens qui. Alors, la plupart du temps, ça se passe de la façon suivante. On fait une première réunion où on discute ce que c'est qu'un projet de santé. On fait venir. À l'ARS, ils ont des facilitateurs, notamment le docteur Kanga et le docteur Lemercier, qui viennent présenter à leurs collègues un petit peu ce que c'est. Puis ben, après, on attend. Généralement, par expérience, on attend un an. Et puis, au bout d'une année, moi, j'ai des exemples comme ça où une infirmière a dit « Tiens, au fait, le truc que nous avez présenté l'autre jour, il y a un an quand même, on le fait quand ?»« Quand tu veux, on fait une réunion. » Et après, quand on a créé ce déclic, après, ça marche. Mais en tout cas, les maisons de santé, il ne faut pas que ce soit des coquilles vides, ce n'est pas quelque chose qu'on construit, on met des professionnels de santé. Il faut vraiment partir des professionnels de santé pour aller sur l'autre côté.
Okay. Merci. Tu te présentes.
Bonjour, monsieur Atsi. Je voulais savoir par rapport à la semaine de la santé. Tout à l'heure, vous disiez que c'était sur tout le territoire. Alors, mais comment vous vous organisez? Ça veut dire dans chaque commune, il y a quelque chose? C'est...
En fait, il y a des partenaires de santé qui sont là toute l'année, qui interviennent, des associations sportives qui proposent de la gym adaptée, il y a des diététiciennes qui font des interventions par l'intermédiaire de partenaires. Et en fait, c'est ces partenaires-là qui souvent proposent eux-mêmes leur activité en amenant, je pense, un peu plus d'expertise sur cette période-là. Mais en tout cas, c'est des partenaires qui sont déjà connus sur les territoires, investis sur le territoire. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à les avoir, je pense, partout sur le territoire.
Un exemple, à Availle, on a deux dentistes. Et la dentiste est allée faire une information sur l'hygiène bucco-dentaire à l'école primaire. Voilà. Mais sur son temps perso. Voilà. Après, on est sur la santé, mais aussi la prévention. Enfin, dans toutes les actions de prévention, bien sûr, on porte la COVID commune. C'est aussi ça, la compétence santé, finalement. C'est aussi porter toutes les actions de santé publique. Le mois sans tabac, ma collègue Cécile a été très active au niveau du personnel de la COVID commune. Et puis, je crois qu'on va continuer, parce que la semaine prochaine... On va sur les chantiers d'insertion, sur faire de la prévention sur le tabac et le cannabis. Voilà. Après, alors effectivement, c'est l'événement phare, mais après, il s'ajoute des choses.
Bonjour, Maxime Verdun, merci pour votre présentation. J'avais une question sur le fait que vous ayez parlé du cadre de vie pour attirer notamment des cadres de santé. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer sur les documents de planification urbaine, comme le plan local d'urbanisme? Est-ce que vous avez cette compétence-là?
Alors, c'est en cours.
Et si oui, est-ce que vous avez prévu d'agir là-dessus pour jouer sur le cadre de vie et à la fois attirer des cadres de santé et en même temps impacter positivement les déterminants environnementaux de santé en réduisant la pollution, etc.
Sur le plan d'urbanisme, pas vraiment. Après, là, on a une grosse opération de communication qui va sortir dans les jours qui viennent. On a fait des vidéos où les professionnels de santé parlaient de leur expérience en territoire rural. Et on a pris, donc on a cinq vidéos de 3 minutes à peu près, qui vont être largement diffusées sur les réseaux sociaux. Donc on a un médecin, donc Aurore Pêcheur, qui est installé à Montmorillon, Adrier, qui vient juste de débuter. Et on lui a dit, raconte ton arrivée, dis-nous ce qui est intéressant pour le territoire. Donc, on a un médecin à Civaux, on a l'hôpital aussi, parce que l'hôpital, le pôle de Montmorillon, c'est quand même quelque chose qui est attractif pour nous. Donc, on a un des médecins, donc le docteur Lorenzo, qui a parlé de son exercice salarié à l'hôpital. Et on a un interne, où moi, je trouve que cette vidéo, elle a vraiment un intérêt super. C'est qu'on a interviewé un interne qui, comme souvent les internes, nous disent « aller exercer à l'hôpital, moi, c'est pas mon truc ». Finalement, il est venu, il est sur l'hôpital de Montmorillon actuellement, et il découvre un exercice de la médecine qui va être différent de ce qu'il peut vivre, c'est lui qui le dit, hein, mais j'en suis convaincu aussi, que peut-être que ce qu'il peut vivre aussi au CHU. Et il dit, finalement, je commence à y prendre goût. Alors, ce ne sera peut-être pas l'hôpital de Montmorillon, ça peut être sur un autre hôpital périphérique. Et puis, on essaie, dans le même coup, de faire de la promotion, puisque la création, c'est 200 médecins, l'appel à projet au niveau national, où l'exercice partagé, c'est-à-dire salarié sur l'hôpital et libéral, exercice partagé. Quoi. Et on aurait deux sites, nous, où potentiellement, Montmorillon et Lussac, il y aurait cette possibilité-là. Autrement, on n'est pas allé aussi en profondeur que vous pouvez le dire. Après, on fait des packs santé, enfin, on fait pas des packs santé, des box santé où quand on commence à avoir des contacts assez avancés, alors un petit peu avancés avec des professionnels, ils ont une box santé pour découvrir le territoire de façon ludique, tout ce qu'on peut faire aussi sur le territoire.
Bien, merci. Oui, rapidement.
Francis Ebeke, expert en gérontologie et doctorant en géographie de la santé à l'Université de Poitiers. En vous écoutant tout à l'heure, je me suis demandé, est-ce que le territoire aujourd'hui, tel que défini, a un sens encore pour l'élu et pour les acteurs ? tout à l'heure, vous avez sorti un mot magique, le diagnostic. Et quand on fait un diagnostic, il y a l'interaction entre les acteurs. Pour arriver à combler les inégalités que vous aviez évoquées tout à l'heure, ma question est celle de savoir, est-ce que au niveau de votre territoire, il y a cette interaction entre les acteurs, les élus, les chercheurs? Pour pouvoir diagnostiquer un territoire, il faut tous ces éléments-là. Est-ce qu'au niveau de votre territoire, vous aviez donc mis sur pied toute cette machine pour pouvoir arriver à diagnostiquer un territoire?
Alors, je ne sais pas. On a diagnostiqué, effectivement, alors certainement avec des biais. Hein. Ceci dit, oui, alors je ne saurais pas trop répondre. Oui, on a fait un diagnostic. Alors après, des chercheurs, je ne pense pas qu'il y ait eu de chercheurs, hein, ça c'est clair. C'était un diagnostic peut-être qu'on a peut-être plus survolé. Après, on s'est quand même énormément appuyé sur le retour alors, des professionnels. Alors les élus, moyennement, je dirais, parce que tout le monde voudrait un médecin dans sa commune. Alors on s'est appuyé, mais je pense que ce qu'on a essayé de faire passer aussi à la suite de ça, c'est qu'on pouvait pas que la médecine, elle a changé et qu'on pouvait pas avoir une implantation médicale partout, en tout cas dans l'état sanitaire actuel, c'est pas possible. Ce qui existait avant. Et après, au niveau de où je pense on a encore pas mal de failles par rapport au diagnostic, c'était la mobilité. Ça s'est revenu de façon récurrente. Et puis, on en a beaucoup parlé et on n'a pas fait grand-chose. Sauf, peut-être, une chose, c'est cette maison de santé qu'on a pu faire à l'Isle-Jourdain-Adrier. Donc, il doit y avoir, je ne sais pas, 12 kilomètres de... Il y a 10 ou 12 kilomètres entre l'Isle-Jourdain-Adrier. La première idée aurait été de se dire on fait tout à l'Isle-Jourdain, ancien chef-lieu de canton, etc. Et puis, comme il y avait encore aussi quelques professionnels de santé, on s'est dit finalement, au lieu de déplacer les gens, peut-être qu'on peut faire un pôle sur Adrier, ce qui était un peu quand même improbable. Voilà. Après, la question, je n'ai pas vraiment répondu à votre question, j'ai botté en touche.
Bien. Écoutez, je vous propose qu'on enchaîne. Merci en tous les cas, tous les deux. Et on demande à... Alors, on fait un pas de côté. Hein. C'est l'habitude des tables rondes, des interventions aussi qu'on développe au titre de créativité territoire. Et là, on fait un retour dans le passé assez long. Voilà. Et donc, je laisse Brice Lopez se présenter et intervenir. À vous et vous parlez bien dans le micro. Voilà.
Pas de problème. Je vais faire ça.
Merci.
Bonjour à tous. Merci pour votre invitation, même si j'ai l'impression de ne pas être forcément toujours à la bonne place. Mais je vais vous parler de blessures chez les gladiateurs avec deux axes, les blessures représentées et les blessures subies chez les non-gladiateurs. Alors peut-être pour certains, vous demandez... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, rapidement... Alors, comment ça marche, celui-là? OK. Donc, voilà, ça sera une petite introduction que je vais me présenter. Et puis, ces deux axes, hein, les blessures apparentes sur les sources archéologiques et les blessures subies. Alors, moi, je suis éducateur sportif de formation et combattant professionnel. J'ai rencontré des archéologues et des historiens. En 1994, je rencontre donc l'expérimentation avec deux axes, l'expérimentation archéologique quand il s'agit d'expérimenter un objet archéologique, un petit peu comme les préhistoriens avec comment ils font du feu, hein, avec les silex. Et moi, j'ai appliqué cette technique-là de recherche aux armes de l'Antiquité. Et ce que j'appelle, et j'ai fini par définir, et de façon, maintenant c'est reconnu par tout le monde, l'archéologie du geste à partir de l'iconographie. Donc en gros, en 1994, un sportif de haut niveau, mais de moyen niveau en réalité, hein, haut niveau mais pas parmi les meilleurs, rencontre des historiens et décide de changer de carrière. En 1999, je crée une équipe professionnelle de nouveaux gladiateurs. Et oui, messieurs, dames, aujourd'hui, il y a encore des gladiateurs. Ça fait toujours bien quand nos enfants à l'école, ils disent « Papa est gladiateur ». Je ne vous dis pas la tête de la prof de latin de ma fille. Mais c'était il y a longtemps. En 2005, parce que ça ne me suffit pas, en 2005, je crée une entreprise pour professionnaliser tous ces gens-là qui avaient déjà une activité. Enfin, on était déjà quasiment professionnels, mais on était plutôt sur une structure associative, on vivotait, etc. Et sur cette base-là, je décide de créer une entreprise. Et j'ai écrit plusieurs ouvrages, dont un qui vient de sortir cette année et que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet et qui s'appelle « Les gladiateurs ». Alors, les blessures représentées sur les sources archéologiques. Il faut savoir qu'une partie de mon travail est la constitution d'un catalogue de sources archéologiques. Mosaïques, fresques, lampes à huile, bijoux, jouets d'enfants, manches de couteau sculptés. J'ai l'habitude de dire que les gladiateurs dans l'Antiquité sont représentés partout, loin de l'image d'Épinal que vous pouvez en avoir. Ils sont des sportifs professionnels qui sont adorés du peuple et donc on les met partout. Bah, un peu comme vous le faites avec vos footballeurs. Non ? Bon, d'autres sportifs, disons, voilà. Et donc, à l'image des footballeurs, ils sont adorés et rejetés, les gladiateurs. Hein, et ils gagnent les mêmes sommes d'argent. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils sont rejetés eux aussi. Donc, une partie de mon travail est la création d'un catalogue de sources. Et sur ces sources, on y voit de nombreuses blessures. On voit beaucoup de gestes qui permettent de préciser les blessures. Et donc, une partie de mon travail a été de recenser ces blessures. Donc ces blessures, on les trouve comme ici sur les trois présentations que vous avez, mosaïque en haut et au milieu et bas-relief en bas. Alors le bas-relief du bas, il n'est pas très loin d'ici, il est à Bordeaux. Il vient d'être ressorti des réserves et on y voit très très bien la blessure qui est infligée aux combattants. Donc pour la blessure en haut, c'est sur le haut de la cuisse, celle du milieu, le dos, enfin bref. On a des blessures qui sont... on va dire une immense majorité, on va dire 90-95% sur le haut du corps. Et ces blessures, je ne me suis pas contenté de les recenser, j'ai essayé de voir et de comprendre l'angle qu'elles pouvaient avoir. Et c'était assez intéressant parce que c'est un angle précis. Et on le voit très très bien sur le bas-relief de Bordeaux, du musée d'Aquitaine. On est vraiment dans des angles qui correspondent à des mouvements particuliers. Je m'explique, vous avez l'habitude de voir des gens qui frappent à l'épée en faisant des grands coups comme ça, d'accord, des grands coups amples. D'ailleurs, si vous donnez un bâton à un de vos enfants, vous verrez, bon, vos petits-enfants, etc., vous verrez que c'est un mouvement naturel. D'ailleurs, on prend ça et puis on va, comme on va taper des fleurs, on va taper un petit copain, bam, 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 on va lui mettre des coups. Les gestes, les blessures qui sont sur les corps des gladiateurs ne correspondent pas du tout à ce type de coups. Elles correspondent à des coups qui sont semblables à ceux que vous faites quand vous coupez du steak. Vous ne faites pas comme ça quand vous coupez du steak, on est d'accord. Vous dormez déjà ? Non, d'accord, ok. D'accord. Non, mais parce qu'on n'est pas nombreux, je m'attendais à ce qu'on réponde. Donc, vous ne faites pas comme ça. Vous prenez votre couteau, et d'ailleurs, vous ne prenez pas une épée, vous prenez un couteau, c'est important. Vous le posez sur le steak et vous tirez. Et ça marche. Vous ne remettez pas du tout ça en question. Ça coupe bien, ça tranche bien, même un bon steak. Mais c'est exactement ce que font les gladiateurs. Ils posent et ils tirent. Et d'ailleurs, la pointe de l'arme, elle n'est jamais à l'intérieur. Si vous faites un coup comme ça, hein, que vous allez comme un coup d'épée médiéval, par exemple, à un moment donné, vous allez trouver la pointe, les stocks, sur l'intérieur du corps. Donc, vous allez être dans un mouvement où on va rentrer et on ne va pas slider, on ne va pas glisser. On voit très bien dans l'image du bas, qu'en fait, on a poussé, on a taillé, on a posé l'arme, on a tiré. Et la pointe des armes, elle n'est jamais à l'intérieur. On ne fait pas des stocks, par exemple, on ne fait pas la pointe comme un scrim moderne. Donc, c'est vraiment une des blessures qui montrent une entaille, avec très souvent une entrée très, très fine. Ça s'élargit, parce que c'est normal, en tirant, ça, et après, ça ressort, ça s'affine. Donc, ça fait une sorte de petit V comme ça, très, 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 très précis, qui correspondent à des mouvements très particuliers. Les blessures sur les membres inférieurs, comme on peut le voir là sur la mosaïque de Zlitten, donc sur le personnage qui est tout en haut là, à droite, là, qu'on appelle le rétière, on voit son mollet qui saigne. Alors évidemment, vous le savez tous, hein, puisque vous êtes dans la santé, ça ne peut pas saigner comme ça. Un mollet, hein, ça ne jaillit pas de cette façon-là. C'est une représentation archéologique. Hein, mais les blessures basses, elles sont très très peu représentées. Il y a aussi très rarement une blessure que peut-être vous ne voyez pas là, il faut avoir un petit peu l'œil. Le personnage qui est en bas à droite qui lève le doigt comme ça. En fait, quand on voit la mosaïque originale, il a du sang qui coule du visage. Donc ça, c'est des blessures par percussion. En fait, on a percuté son casque a frappé les arcades sourcilières, et comme vous le savez tous, les arcades sourcilières, ça coule beaucoup. Et c'est un moyen d'aveugler en faisant couler le sang à l'intérieur des yeux. D'ailleurs, c'est intéressant, en face de lui, son adversaire qui est là, très sympa comme ça, il se la raconte un peu, ça y est, j'ai gagné. Il s'appelle l'Oplomaque, et on a un texte latin qui dit « Oplomaque, ce que tu faisais mal en tant qu'ophtalmo, tu le feras bien en tant que gladiateur ». Voilà, ça c'est dit. Mais comme on le voit sur tous ces documents archéologiques, donc moi j'ai recensé plus de 2500 documents archéologiques sur les gladiateurs, parce que la plupart d'entre vous, sans vouloir vous offenser, vous connaissez les gladiateurs par le cinéma, par la télévision, rarement par les documents archéologiques. C'était mon cas quand j'ai commencé il y a 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai la plus grosse collection iconographique, c'est 2500 documents. Pour vous donner un ordre d'idée, des quantités, ma fille qui est docteur en histoire a fait sa thèse de doctorat sur les gladiateurs en Grèce, elle est à l'école française d'Athènes, et elle travaille uniquement sur les stèles des gladiateurs, ou les pierres tombales. Les pierres de tombales uniquement en Grèce, son catalogue est de 450. Donc c'est énorme, on a énormément d'informations, et c'est très intéressant parce que l'iconographie est extrêmement précise et souvent elle est associée à de l'épigraphie. Donc les gladiateurs blessés, la plupart du temps, à part de très très rares exceptions, il continue toujours à être debout, à être capable de faire une action, de réaliser quelque chose. Il lève le doigt, il se met en genou, il rend de leurs armes. Ou comme là, on le voit, l'autre, il a le sang qui coule du visage, mais il est toujours debout, il a lâché son bouclier, mais il lève le doigt, il n'est pas du tout mort. Ça nous permet aussi d'avoir une information sur les gladiateurs. Ils ne meurent pas aussi souvent que Spartacus. Et il y a une peinture murale qui est intéressante parce que si vous suivez un petit peu l'actualité, vous avez peut-être vu sur vos réseaux sociaux, parce que maintenant, sans le vouloir, vous recevez des informations toutes les 3 secondes sur vos téléphones. Et peut-être vous l'avez vu passer parce que France Télévisions et tout un tas d'autres médias s'en sont fait l'écho. À Pompéi, on vient de découvrir cette peinture murale. Une peinture murale très intéressante. Et un des directeurs de Pompéi a commencé à raconter qu'on voit très bien comment c'était super violent, ils s'entretuaient, etc. Comme vous le voyez, ils sont tous les deux debout, hein, d'accord, il n'y en a aucun qui est mort. Mais par contre, on voit très très bien les blessures hein, au niveau du pectoral, ce qui est malgré tout assez rare, parce que 90% des blessures qu'on peut voir et qui correspondent aux tests expérimentaux qu'on a pu mener, elles sont plutôt sur l'arrière et sur le côté. Ce qui est logique. Oui ? Et non, parce que en fait, vous êtes derrière. Non, vous êtes derrière. Dans un combat de gladiateurs, vous êtes derrière. Vous, spectateur, vous êtes dans les gradins d'un amphithéâtre, vous êtes donc derrière. Et oui, parce que les deux combattants, ils sont comme ça. Et donc vous êtes derrière. Donc il faut que les blessures, pour qu'elles se voient, elles soient derrière. Pourquoi vous n'allez pas voir des matchs d'escrime ? Parce que c'est super comme sport, l'escrime. Mais vous n'allez pas le voir parce que vous ne comprenez rien. Ce n'est pas spectacula. En latin, donner à voir. Pour que ça soit spectaculaire, il faut que l'on puisse se voir et que l'on puisse comprendre. La problématique de beaucoup de sports aujourd'hui, sport de combat, c'est qu'on ne le comprend pas. Mais ne vous inquiétez pas, même les escrimeurs entre eux, ils ne comprennent pas. Hein. Ils sont obligés de mettre des lumières hein, pour comprendre. Donc forcément, d'accord. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai, hein. Donc, d'accord, on est d'accord. Donc là, cette peinture murale, elle n'apporte rien de plus, si ce n'est que de temps en temps, il se blesse sur le pectoral. C'est très intéressant, parce que là aussi, ça corrobore parfaitement les tests expérimentaux que j'ai pu mener sur les gestes possibles. Je vous disais tout à l'heure, hein, vous ne faites pas des grands mouvements comme ça avec les gladiateurs, vous posez et vous tirez. Pourquoi ? Ben parce que l'archéologie nous a donné des armes de gladiateurs. On sait que les gladiateurs n'ont pas d'épée. Ils combattent avec un couteau, comme vous quand vous coupez de la viande. Les armes découvertes à Pompéi, à Rome et ailleurs, elles font 33 cm en moyenne. Il n'y a que les cascadeurs au Puy du Fou, vous connaissez ? Hein ? Qui combattent avec des grandes épées. Oui, mais en fait, ils combattent avec des grandes épées parce qu'ils ont des grosses voitures. Tu vois le truc ? Tu comprends le symbole ? Ok. Non, mais c'est la vérité, monsieur. Hein. Je suis désolé. Hein. Allez sur une fête médiévale, demandez-leur pourquoi ils ont des grosses épées très très lourdes, alors que la réalité, c'est pas ça, c'est jamais très lourd une épée. Voilà. Les gladiateurs combattent avec, dans l'Antiquité, avec des armes de 33 cm. Les blessures que vous avez là à la poitrine, elles ne peuvent pas se faire avec des longues épées. Parce que quand vous avez le bouclier devant vous, Pour pouvoir rentrer derrière le bouclier et tirer, il faut avoir une petite arme. Pour pouvoir passer par-dessus le bouclier et tirer dans le dos, il faut avoir une petite arme. En fait, exactement comme vous, quand vous coupez de la viande. Vous ne faites pas avec une grosse épée, c'est très efficace. Mais vous ne pourriez pas contrôler correctement. Les gladiateurs ont une petite épée, ils contrôlent. Donc, l'iconographie nous montre des blessures extrêmement précises, extrêmement ciblées, et qui corroborent parfaitement l'idée que les gladiateurs ne s'entretuent pas. D'ailleurs, ces blessures, vous le voyez, elles sont sur la poitrine. Elles ne sont pas sur l'abdomen. Et l'abdomen est protégé par une large ceinture, beaucoup d'étoffe et du cuir. Au Japon, quand on se fait seppuku, là, ce que vous appelez harakiri, c'est au niveau de l'abdomen. Parce que c'est là où c'est dangereux, c'est pas ici. Ici, pour que ça soit dangereux, il faudrait perforer. Et c'est pas avec une entaille qu'on perforera. Donc, l'iconographie montre vraiment des blessures extrêmement intéressantes. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de les étudier. Ma deuxième partie, c'est les blessures chez les néo-gladiateurs. Alors, je vous rassure, je ne suis pas fou au point d'avoir mis des armes tranchantes dans les mains de mes gars, hein, d'accord ? En tout cas, pas pour les combats. Mais ces blessures se font, ont été recensées depuis à peu près une vingtaine d'années sur mon équipe professionnelle, qui était constituée au départ de 4 combattants avec lesquels je travaillais quand j'ai rencontré l'archéologie expérimentale et que j'ai entraîné. Ces combats se font sur des combats non chorégraphiés, sinon elles n'ont pas d'intérêt, hein, ou moins d'intérêt. C'est sur des combats où on essaye vraiment de se toucher. On a sur Facebook un grand nombre de vidéos, et sur YouTube un grand nombre de vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Et ça sur une période de 20 ans, et ce qui correspond à peu près à 40 000 combats effectués. D'accord ? Un combattant professionnel chez moi, il fait à peu près 200 à 250 combats par an. Maintenant, on fait beaucoup, beaucoup de représentations. Ce qui veut dire que le nombre de blessures est suffisamment conséquent pour constituer un effet statistique. Bon, alors, c'est pas super précis, mais déjà assez intéressant. J'ai recensé 2 types de blessures chez mes néo-gladiateurs. D'abord, des blessures non intentionnelles, mais sur des attaques volontaires et choisies. Je m'explique. On combat réellement, on essaie de se toucher, donc je fais bien une attaque volontaire pour toucher mon adversaire. C'est bien moi qui choisis de t'attaquer en haut, qui est là, etc. Mais je ne cherche pas intentionnellement à te blesser. Je cherche juste, avec mon arme, comme si j'allais couper un steak, à poser. Comme ce n'est pas tranchant, tu risques rien. Quand je tire, tu n'as pas grand-chose. Ces blessures, elles sont nombreuses, mais elles sont très légères. C'est le tranchant, quand je t'entaille, au lieu de t'entailler doucement comme je devrais le faire, ben, dans la précipitation du combat, je régule mal le truc, je te tape fort, au lieu de te taper dans le dos, je suis un peu sur la clavicule. On a des blessures donc qui sont assez nombreuses, puisqu'avec 40 000 combats évidemment, mais elles sont très légères, elles n'ont pas vraiment de gros impact. Elles sont toujours la conséquence d'actions réussies, c'est-à-dire je viens, je veux volontairement te toucher et je te touche. Donc c'est volontairement une action réussie. Je la contrôle, je la maîtrise, mais souvent toi tu bouges, toi tu voilà, et c'est souvent, j'ai remarqué, une erreur de l'autre, c'est l'autre qui fait une mauvaise parade, un mauvais déplacement et qui amène l'arme là où elle ne devrait pas aller. Je m'explique, il m'est arrivé je mets des coups de pied, parce qu'on a le droit de mettre des coups de pied. Donc quand je combattais encore, je mettais des coups de pied, beaucoup de coups de pied à mes adversaires. D'accord ? Moi, je combattais souvent sans casque, avec le trident et le filet, ce qu'on appelle le rétière. Je mettais des coups de pied à mon adversaire qui avait un grand bouclier. Plusieurs fois, ça marche. Et un jour, dans l'amphithéâtre d'Arles, où on combat beaucoup, j'ai mis un coup de pied, comme d'habitude, toujours le même, toujours bien placé, toujours au même endroit, bon timing, hein, parce que bon... Je suis le prof, donc je sais quand il faut le mettre. Et l'autre, au même moment, il a pas voulu se protéger, il a voulu attaquer. Et il a envoyé son arme. Et il m'a transpercé la jambe. Il m'a enfoncé son arme, pourtant non tranchante, de 1 cm à l'intérieur de la cuisse. Ou moi, je voulais l'attraper. J'ai voulu attraper son casque. Et bon, un casque avec une pointe un peu comme ça, j'ai fait avec lui peut-être, je sais pas, 3000 ou 4000 combats, j'ai rentré sa crête dans ma main. Voilà. C'est une action qui dérape, et c'est souvent une erreur plus que volontairement l'autre qui va blesser. Les conséquences sont souvent minimes, c'est vraiment très très rien, des rougeurs, des égratignures, des chocs légers, des entailles, voilà, ça, la cuisse 2 points, à la main 2 points, c'est vraiment c'est rien, ça n'a pas engendré d'arrêt de travail, ça n'a pas engendré de... Voilà, on s'arrête pour le temps d'aller se faire soigner, on va à l'hôpital d'Arles ou de Nîmes, et puis on leur dit, c'est encore les gladiateurs, hein, ouais, d'accord, ok, super. Alors, ils ont l'habitude maintenant, hein, depuis 20 ans, ils commencent à nous connaître, les infirmiers, tout ça. D'ailleurs, j'ai un de mes gars qui a arrêté, parce que celui qui combattait avec moi était fatigué, lui aussi. Et moi, je me suis arrêté, j'ai continué à diriger l'entreprise, et lui, il est devenu infirmier. Il est à l'école d'infirmiers à Arles maintenant. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Et donc, c'est pour pouvoir être soigné directement par quelqu'un qui connaît. Et donc, voilà, très peu de choses très difficiles. Et c'est surtout le dos et les jambes et les mains qui ont touché. C'est-à-dire, les jambes et mains parce que c'est en action, très rapide, ça va vraiment vers l'adversaire. Et le dos parce que quand on attaque, on va attaquer dans le dos, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, du coup, les entailles, les chocs se font souvent sur les omoplates, les clavicules, etc. Puis, deuxième type de blessure, c'est vraiment... la blessure d'accident sur une action non maîtrisée, c'est-à-dire quelque chose que l'on fait par action ou par réaction, très souvent d'ailleurs, et qui n'est pas du tout maîtrisé, geste non contrôlé, beaucoup trop fort, beaucoup, voilà, très, très mal, quelque chose de très mal réalisé. Et ces accidents sont extrêmement rares. On a très, très peu, finalement, après presque 20 ans, on a très, très peu de très gros accidents, alors qu'on fait des combats. Enfin, la plupart du temps, les gens disent que c'est extrêmement violent. Quand ils le regardent, c'est waouh, c'est dur. Ils ont l'impression de voir un match de boxe, quoi, mais avec des armes. Hein. Voilà. On a à peu près 17 kilos d'équipement en moyenne sur le dos quand on combat. Les casques font entre 6 et 9 kilos, pour vous donner un exemple. Donc, souvent, voilà, la mauvaise gestion de celui qui est blessé, voilà, il commet une erreur. Voilà, et, voilà, et c'est très exceptionnel quand c'est l'attaquant, comme je disais tout à l'heure, qui vient, quand il m'a transpercé la cuisse, il ne l'a pas fait volontairement. Voilà, ce n'était pas très grave, ça va. Ces quelques accidents, ces quelques blessures par accident, elles ont entraîné des arrêts de travail. Et vraiment, voilà, des inquiétudes. Sur l'ensemble de la période, sur les 40 000 combats, ça représente à peu près un accident, une blessure pour 5 000 combats. Et c'est exclusivement ligaments croisés, typique des sports de combat, coiffe des rotateurs, donc les épaules, et puis des chocs violents à la tête quand on combat sans casque. C'est-à-dire que celui qui n'a pas de casque, le rétière, c'était moi, c'est à la tête. Et après, très ponctuellement, la main, comme je vous le disais, on a eu 2 accidents à la main, moi dans la crête, et puis un autre, une arme qui est rentrée dans le gant, mais les mains sont protégées, normalement, on a très très peu de risque d'être blessé. Mais voilà, les grosses blessures, c'est ligaments croisés, donc genoux, et épaule, la coiffe des rotateurs. Et c'est assez intéressant le fait que, notamment les ligaments croisés, on est 20 combattants professionnels et on est 3, 4 maintenant, 4 à avoir eu les ligaments croisés. Et c'est assez intéressant, enfin, ce qui est intéressant, excusez-moi, c'est jamais intéressant de se blesser, mais les données archéologiques, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, on ne voit pas là. Je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais sur le sécouteur qui est au milieu, là, ici, là, vous voyez ça là ? Ce bandage ? Vous le connaissez, ce bandage, aujourd'hui ?
C'est pas un garrot ?
Non. Bandage sous-rotulien. Aujourd'hui, on utilise ça encore en tennis, en course à pied ou dans certaines pratiques sportives, ce qui permet d'hypersensibiliser le tendon sous-rotulien de façon proprioceptive pour renforcer l'autoprotection des entorses du genou. On le fait encore beaucoup aujourd'hui. Vous en trouvez des bandages sous-rotuliens dans beaucoup de magasins de sport parce que c'est quelque chose de très pratique pour favoriser, enfin, faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents au niveau des articulations du genou. Donc, c'est très intéressant pour moi de voir que finalement, nos blessures à nous, des néo-gladiateurs, rejoignent sûrement un petit peu les problématiques des gladiateurs dans l'Antiquité. Ces blessures par accident, on ne peut pas les voir dans l'iconographie, très très peu. Ce qui nous montre, c'est les autres, qui pour nous ne représentent que des rougeurs et des petits chocs, parce que nos armes sont non tranchantes, et si les armes étaient tranchantes, ça représenterait des entailles. D'accord ? Et c'est ça qu'on voit dans l'iconographie. Des blessures qui finalement ne sont pas extrêmement dangereuses, mais qui devaient être assez nombreuses, et qui représentaient pour les gladiateurs les entailles qui permettaient que le sang coule et que le public soit content. Donc, en conclusion, ce que je vous disais, donc, ce qu'on a pu recenser sur l'accidentologie moderne de nos néo-gladiateurs recoupe les données archéologiques et renforce cette idée de spectacle chez les combats de gladiateurs. Hein, le concept qui sous-tend toute l'idée gladiatorienne, c'est le spectacle, c'est-à-dire quelque chose qui doit être montré à voir. Une action sportive, on n'est pas dans l'agone, on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans les Jeux Olympiques grecs, hein, on est vraiment dans un spectacle. Je pourrais en parler des heures, vous expliquer, mais c'est pas le sujet. Pourquoi et comment les gladiateurs sont des gens de spectacle. Vous pouvez aller sur YouTube, l'université de Bordeaux l'année dernière m'a fait faire une conférence sur le sujet de 2 heures qui est en ligne. Donc vraiment là, l'accidentologie nous permet de renforcer cette idée de concept de spectacle. La taille des armes et ici on le voit, la gestuelle représentée sur les combats de gladiateurs est vraiment très particulière. Vous voyez cette pointe vers le bas, il s'entraîne là, il est tout seul, il a la pointe vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de faire ce geste là qui est le geste qui permet de passer dans le dos et de venir tirer. Après il vient poser dans le dos, pointe en bas et il tire, il n'est pas du tout dans une action avec la pointe vers l'adversaire. Et toutes les actions modernes corrobore ça, et avec cette technique qui est extrêmement, entre guillemets, efficace, qui est l'estoc, c'est-à-dire qu'on va complètement, chez les gladiateurs de l'Antiquité, exclure la pointe, qui est une technique extrêmement efficace pour aller tuer l'autre, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans le monde gladiatorien. Ici, tout en haut, une peinture murale de Périgueux, où on voit encore cette idée d'entaille dans le dos. Hop, on vient et on tire. On tire dans le dos et la blessure, elle est juste ici, là, tout le long. Ici, sur l'original, on voit bien. Voilà, j'ai mis cette petite citation de Diderot en conclusion. Parce que tout notre travail est résumé ici. Mon objectif est vraiment de travailler sur les faits le plus possible, plus que sur des commentaires ou sur des choses. Nous, on essaie de recueillir des faits, notamment en archéologie expérimentale et en archéologie du geste. Il faut s'appuyer sur des faits. Et c'est pour ça que je vous ai parlé là principalement ou exclusivement d'archéologie et pas d'histoire, c'est-à-dire pas de textes qui, dès le départ, sont eux des commentaires. Voilà. Merci beaucoup.
Merci. Donc, je l'avais dit, c'est un décalage. Hein, voilà.
Je voulais vous poser une question concernant sur le moment de l'action, quand les gladiateurs se blessent, vous arrêtez les combats, ça se passe comment ?
Alors, les fois où il y a eu d'assez grosses blessures, notamment les ruptures des croisés, oui, parce que derrière, on ne pouvait pas continuer, on ne pouvait pas se tenir debout, etc. Après, quand il s'agit de pénétration corporelle de l'objet contondant dans le corps de l'adversaire, non, on continue. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je me suis ouvert la main, on a des bandages sur nous un peu partout, on prend un bandage, on se le met sur la plaie, on continue pendant 2 minutes, 3 minutes le combat, et après, on va tranquillement à l'hôpital se faire recoudre, mettre 2 points. Mais la plupart du temps, on essaie de cacher... Nous, aujourd'hui, on essaie de cacher le sang parce que, voilà, dans l'Antiquité, eux, l'objectif, c'était qu'ils montrent le sang. Hein, donc, ils montrent... C'est pour ça que sur l'iconographie, ils exagèrent cette idée de montrer le sang. Les blessures chez les gladiateurs de l'Antiquité, elles ne sont pas extrêmement... violentes, au sens, elles vont pas les tuer directement, mais elles sont là pour montrer du sang qui coule. Donc en gros, comme une entaille quand vous coupez du steak, juste couper le dessus pour que le sang coule. Voilà.
Et vous avez des équipes médicales à disposition
Non.
Ou c'est directement à l'hôpital
Non, c'est dans les lieux de spectacle où on se produit, les musées, les sites archéologiques, tout ça, ils ont des équipes de secours. Et puis, de temps en temps, on fait venir les pompiers quand on est vraiment blessé. Mais encore une fois, on fait... En ce moment, on tourne entre 1500 et 2000 représentations par an. On travaille avec 25 000 collèges, 500 établissements scolaires. On n'a jamais d'accident grave. C'est-à-dire que, encore une fois, les accidents qui ont nécessité l'intervention des services de secours en 20 ans, sur 40 000 combats, c'est 8 interventions d'équipes de secours. C'est-à-dire, beaucoup moins qu'en foot, beaucoup moins qu'en hand, beaucoup moins. C'est ce que je disais à table à midi. Si les sports de combat et les gladiateurs, entre autres aujourd'hui, hein, c'est pas des sports très violents. Hein, c'est plus dangereux de faire de l'équitation. Hein.
D'autres questions? Peut-être un mot sur votre implantation dans l'Ouest.
Ah oui, en fait, mon entreprise est basée à Beaucaire, dans le Gard, et à Arles, puisque je suis arlésien. Mais on a ouvert un second établissement à Saintes, puisqu'on travaille beaucoup dans toute la partie ouest de la France. Il se trouve que mon épouse est charentaise. Et donc, on essaye de trouver un lieu pour implanter un parc historique à proximité de sites archéologiques. Donc, on essaie de s'implanter ou à côté de Barzan, ou à côté. Voilà, on travaille avec Chassenon, on travaille avec beaucoup de sites historiques et archéologiques sur vos territoires. Et on essaye de trouver une implantation locale, comment faire pour pouvoir aussi dynamiser. On aime être au plus près des territoires et dynamiser tout ça. Et on espère le faire avant les JO, puisqu'on travaille aussi beaucoup sur la partie Jeux Olympiques. Voilà, merci.
Merci. Merci, Brice Lopez. Donc, j'appelle maintenant Olivier Becquet, à qui je laisse le soin de se présenter et nous parler de santé et vieillissement, ou vieillissement et santé.
Je voudrais remercier Jackie et son équipe qui, depuis quelques mois, cheminons donc ensemble pour la recherche sur le plan disciplinaire et interdisciplinaire. Et c'est dans cette action, cette mouvance, que j'ai donc proposé pour cette thématique santé et territoire. Le thème santé et vieillissement, vieillissement et santé. Je voudrais d'abord dire à mon prédécesseur qu'il est de plein droit, il est même dans le sujet, parce que la santé touche tous les domaines. Et vous allez le voir tout à l'heure. Pour bien vieillir, il faut au moins avoir une activité physique et sportive. Le thème, donc, pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est parce que le vieillissement aujourd'hui pose un réel problème au sein de la société, au sein de nos familles. Je me suis dit qu'il fallait donc réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire, déjà nous ici, dans le siècle créativité et territoire. Je voudrais prendre deux anecdotes pour justifier le choix de ce thème. Je suis soignant, je vous l'ai dit. Voilà un patient, un résident que nous amenons donc aux urgences. Il arrive aux urgences, il est bien malade. Mais monsieur va être consulté, sauf qu'aux urgences, cette pathologie qu'il a ne peut pas se soigner là-bas. Il est venu pour une autre pathologie. Il est abandonné pour 2-3 minutes. Monsieur va s'installer, il fugue, il déambule. Il va s'installer dans le bureau du directeur. On va le chercher, on va le fouiller pendant 4 heures d'horloge. Et on va voir un monsieur, tout le monde passe. On croit que c'est le directeur qui est assis. On se rend compte que c'est effectivement le résident, le patient, qui est venu se faire consulter. C'est pour dire qu'il y a des maladies qui parfois n'interpellent pas les uns les autres, mais qui interpellent plusieurs domaines. Donc, l'introduction, comme je vous ai dit, très bref, n'allons pas nous appesantir sur les mots. Nous allons donc essayer d'aller droit au but, car vieillir n'est pas une maladie. Le vieillissement aujourd'hui pose un réel problème, comme je l'ai dit, au niveau de la santé publique et interpelle donc chacun et chacune de nous. Cela implique que nous puissions mettre sur pied des actions. Quelques données statistiques. La tranche d'âge de la population des personnes âgées aujourd'hui est de 125 millions. La population de 60 ans et plus, en 2050, va doubler, passant de 12% à 22%. Et cela nous interpelle tous, car par rapport à l'espérance de vie, plus nous allons vivre longtemps, plus la problématique du vieillissement va se poser avec acuité. Comment comprendre le vieillissement et ses problèmes? Le vieillissement, je vous l'ai dit, ce n'est pas une maladie. On peut donc noter le vieillissement normal, quelques aspects biologiques, physiologiques, psychologiques, neurologiques, aspects émotionnels, approche fonctionnelle, aspect psychomoteur. Le vieillissement pathologique, il s'agit des maladies graves et chroniques. C'est pourquoi on dit souvent, il n'y a pas un âge pour vieillir, il n'y a pas un âge pour être jeune. Un jeune peut être un vieux peut être un jeune. On le verra plus loin. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées interpelle aujourd'hui la recherche, car c'est là le cœur du vieillissement aujourd'hui, la perte de la mémoire. Les facteurs influençant le vieillissement, l'ADN, on ne peut pas changer son ADN, il est naturel. Ça, personne ne peut changer l'ADN. Les facteurs physiques et sociaux, les facteurs environnementaux, logement, le quartier, la communauté, facteurs comportement, capacité et incapacité physique et mentale. Je voudrais m'arrêter ici pour dire, Virginia Anderson, dans les 14 besoins, définit de l'homme étant en quête d'aide quand ses besoins sont perturbés. Et tous ces facteurs que je viens d'énumérer entrent dans la constitution de la personne à travers les 14 besoins. Et quand ces besoins sont perturbés, il y a dysfonctionnement et ceci peut aussi influencer le vieillissement de la personne. Le vieillissement ne va pas sans défi. Comme je l'ai dit, pas de personne âgée type. Il faut des actions au niveau de la santé publique. Ces actions sont globales. On l'a évoqué tout à l'heure en parlant d'inégalité de santé. Et tout à l'heure, je vais faire un bémol. Le diagnostic suppose donc deux questions fondamentales pour répondre à la question d'inégalité de santé. La première question, pourquoi on va faire un diagnostic? C'est comme un médecin. Je disais un mot magique. Le médecin, quand il prend son bistouri, c'est pour aller chercher le mal. On fait un diagnostic pour trouver le mal. Quand le mal est trouvé, pourquoi et comment? Avec qui? Où? Quand? En vue de quoi? Donc, c'est un peu ça le diagnostic d'un territoire et c'est pour apporter des solutions avec les acteurs, tous les acteurs du territoire. Donc, les inégalités de santé interpellent dans les politiques de santé publique qui doivent réduire au lieu d'accroître les inégalités. Ça a été dit tout à l'heure par M. le maire. Il est question de dépasser les stéréotypes et les stigmatisations. Aujourd'hui, les personnes âgées sont stigmatisées. En Afrique encore, elles sont taxées d'être sorcières, hein, de beaucoup de mots. Donc, il faut dépasser cela. Les personnes âgées sont encore influencées par la modernité. Vous vous rendez compte d'un robot qui vient donner à manger à une personne âgée. Un robot qui donne le médicament. L'humanisation, les migrations, les normes sexuelles. Je vais le dire plus loin. Les personnes âgées ont le droit de vivre leur sexualité. En EHPAD d'aujourd'hui, ça pose un réel problème. Quand on voit deux personnes, on se dit, tiens, mais c'est les familles, c'est même pas tellement les personnes. Ces personnes ont encore le droit de vivre leur sexualité. Alors, l'OMS va nous proposer 5 domaines d'action prioritaires. Il est question de renforcer les capacités des personnes âgées, adapter et organiser les soins des personnes âgées, développer les systèmes de santé et de soins de longue durée et les soins palliatifs. créer des environnements adaptés aux personnes âgées pour mieux accompagner et soigner. Améliorer l'évaluation, le suivi et la compréhension des problématiques des personnes âgées et mettre en œuvre des activités et des stratégies nouvelles adaptées aux projets personnalisés des personnes âgées. L'actualité nous pose un réel problème. Une dame qui décède de suite d'une négligence des urgences, l'évaluation, la gravité, jusqu'où peut aller une gravité. L'actualité nous dira un peu la suite par rapport aux enquêtes qui sont menées. Mais c'est pour dire que évaluer la personne âgée n'est toujours pas chose facile, même nous-mêmes qui avons fait les études en gérontologie. C'est une évaluation globale, standardisée. C'est-à-dire que c'est en équipe qu'on arrive à évaluer non seulement le comportement, mais les pathologies de la personne. Imaginez-vous un seul instant, vous dites à une personne, ouvrez la bouche. Cette personne ne tilte plus. Que veut dire ouvrez la bouche? C'est comme quand vous allumez une ampoule de votre chambre, quand elle ne donne plus, le neurone est grillé. Le neurone, c'est la seule cellule qui ne se reproduit pas. Donc cette personne ne peut plus avoir la commande d'ouvrir la bouche. Le langage que nous utilisons, qui est verbal, ne passe plus. Il y a maintenant le langage gestuel. Et ça, nous devons faire attention, non seulement les professionnels de santé, mais aussi en famille. Quand on dit ouvrir la bouche, la personne, pour elle, ça ne dit plus rien. On peut ainsi de suite multiplier des exemples par rapport à nos parents qui ne tiltent plus. Les rapports que nous y avions ensemble dans la maison, ce n'est pas l'occasion de crier et d'infantiliser papa, mamie ou papy. Alors, comme conclusion, les problématiques de vieillissement interpellent aujourd'hui plus que dans le passé les chercheurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous avons donc là une dame qui marche et on nous dit que la personne qui marche en journée va aérer son cerveau, la mémoire, l'humeur, les os, l'espérance de vie, le poids, le cœur et tout cela, scientifiquement ça a été prouvé que la marche faite en quelques minutes est bénéfique pour le corps et l'esprit. Alors, pourquoi faire du sport, renforcer l'organisme, faire perdre du poids, prévenir les maladies, permettre de se déstresser, améliorer le comportement, la concentration, augmenter la masse musculaire, augmenter l'endurance, ainsi de suite. Alors, une dernière question que je me suis posée par rapport à tout cela, comment faire donc pour vieillir? Comment faire pour vieillir en santé? L'OMS a proposé 3 choses. Et je vais ajouter une 4e. L'OMS parle de l'activité physique ou sportive. Il faudrait que nous puissions avoir une activité sportive, c'est pour ça que j'ai parlé de la marche. La deuxième chose que l'OMS propose, la nutrition. Il n'est pas question de manger, de se gaver. Se nutrir veut dire manger suffisamment en respectant donc, comme on dit, sains fruits, sains légumes, ainsi de suite. En plus, l'OMS propose l'activité cognitive, fait travailler sa mémoire. Et je voudrais ajouter une 4e activité qui est l'activité sexuelle, qui permet à l'homme aussi de s'exprimer, de communiquer avec l'autre. Et ceci permet donc non seulement de bien vieillir, et de vieillir aussi en santé. Alors, j'ai voulu proposer ce sujet parce que je me suis rendu compte aujourd'hui, dans mes recherches, que la personne âgée est vulnérable. Il y a plusieurs risques à domicile, les risques de chute, les risques de fractures, de suicides, ainsi de suite. Et une telle thématique ne saurait rester sous les casiers. Et à l'université aujourd'hui, elle fait l'objet de plusieurs disciplines qui s'intéressent au vieillissement, notamment la gérontologie que j'ai étudiée. Voilà un peu pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette problématique. Et j'espère qu'il y a des questions. Je pourrai répondre aux questions.
Merci beaucoup. Bien. Questions, remarques, comme vous le souhaitez. Moi, j'en ai une. Est-ce que vous avez connaissance d'expériences comme ça, puisque vous parliez des EHPAD, je pense à un EHPAD dans le sud de Vienne qui a développé une approche à partir de la méthode Montessori. Alors, je sais pas, parce qu'au fond, l'EHPAD, elle est quand même un petit peu instituante, institutionnelle, et voilà, elle peut écraser parfois certaines velléités. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les EHPAD aujourd'hui, j'ai commencé par faire une enquête là qui devait porter quand même soit positivement ou négativement la position. Ça tombe bien que vous posiez la question. J'ai travaillé en EHPAD en Alsace, à Strasbourg notamment, dans plusieurs EHPAD, où j'ai été formé à l'IFSI Saint-Vincent. Et j'avoue que le devoir régalien d'abord, c'est celui de l'État. Quand on regarde la naissance des EHPAD, c'était pour solutionner le problème de la prise en charge de ces personnes âgées. Deux mots vont donc résumer votre question, la maltraitance et la bientraitance. Et quand on regarde ces deux mots, jusqu'où on est bientraitant, jusqu'où on est maltraitant. Et cette maltraitance, elle est physique, elle est financière, elle peut prendre d'autres formes verbales. Donc, les EHPAD aujourd'hui, est-ce que les EHPAD répondent aux besoins des personnes âgées? Et c'est pour ça que j'ai laissé l'enquête, mais j'ai mené cette enquête auprès des étudiants en psycho à l'université de Poitiers et en géographie. Certains étudiants ont dit, nous pouvons mettre nos parents dans les EHPAD, mais nous, non. Une contradiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'envoie mon papa, ma maman en EHPAD, mais moi, je n'aimerais pas vivre en EHPAD. N'hésitez pas, le questionnaire est encore là, vous pouvez le remplir, juste cocher. Il y a un réel problème. Ça veut dire que les EHPAD d'aujourd'hui posent un réel problème et il faudrait que l'ARS, comme ça a été dit tout à l'heure, puisse réfléchir. Mais là où le bas blesse, quand l'ARS passe pour faire son évaluation, tout est nickel. On fait tout pour que le superviseur trouve tout nickel. On dit même aux soignants, faites un effort d'être en tenue propre et tout, 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 tout. Comme on dit chez nous en Afrique, quand l'étranger arrive, on balaye la devanture et le derrière est tellement sale. C'est pour ça que l'étranger, on dit souvent quand l'étranger vient, quand il passe par derrière, il voit la réalité. Donc c'est ça un peu la question. Les EHPAD d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont appelées à mourir? Quand on sait encore qu'il y a une vague de personnes qui bénéficient de ces services, de cette activité économique. Donc la question est très capitale et mérite d'être encore étudiée avec attention.
Justement, par rapport aux EHPAD, là, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... je ne sais pas si c'est des entreprises ou des personnes, en fait, qui réunissent des personnes âgées dans des petits pavillons avec... ils leur amènent à manger, ils s'occupent de leur faire le ménage, mais voilà, ils ont leur petit jardin, ils sont entre eux, ils peuvent sortir, ils peuvent se promener. Est-ce que vous pensez que c'est une solution, ça? Par rapport à vos recherches?
Ça s'appelle unité protégée. Et tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple de cette personne qu'on amène aux urgences et qui a ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs. Cette personne a des troubles d'orientation. Cette personne est normale. Elle était seule, elle vivait seule chez elle. Subitement, elle se retrouve en EHPAD parce que ça ne va pas, la mémoire ne tient plus. Cette personne, elle est arrivée à l'hôpital, elle a pris le bureau du directeur. Donc ça veut dire que les unités appelées unités protégées, où je travaille actuellement, comme Géronto, sont des lieux où il faudrait un accompagnement spécifique. Seulement on se pose la question, est-ce que les soignants sont formés à ce type d'accompagnement? Ça veut dire que vous avez 12 personnes, il faut s'occuper de ces personnes. À Bordeaux, il y a une expérience qui est en train d'être mise sur pied, village Alzheimer. Déjà, c'est pour moi, c'est déjà pointé du doigt. Village Alzheimer, c'est stigmatisant. Nous sommes dans un groupe de recherche fin de vie à l'université de Poitiers, où je disais déjà que moi, je suis en train de faire travail sur l'accompagnement des personnes âgées. Mais je propose aussi un diagnostic du territoire en tenant compte des espaces gérontologiques où on peut, autour de la personne âgée, créer un territoire pour faciliter l'autonomie de la personne. Piscine, boutique, tout, comme ils sont en train de faire à Bordeaux. À proximité, la personne a tout. Et ça permet... 120 personnes, 120 soignants, il n'y a pas que 120 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer en France. Donc le projet de Bordeaux me semble être très colossal. C'est pour ça que je dis que, bon, par rapport à mes recherches, je crée donc les espaces gérontologiques au sein des territoires autour de la personne âgée qui pourrait trouver son autonomie.
Très bien. Merci, Monsieur Ebeke. Donc je vous propose de donner la parole ensuite à Marie Ferru et Jade Homer, donc étudiantes du master que dirige Marie, et qui présenteront leur travail, vous organisez comme vous l'entendez, présenteront toutes les deux, voilà. Je vous propose de venir et de... voilà.
Bonjour à tous. Donc, en avant-première, en fait, un travail qu'on vient juste de terminer, un travail qui est issu du stage de Jade. Donc, Jade a fait un stage en master 1 dans le master que je dirige, qui est sur les stratégies des entreprises à l'international. Et en fait, elle a fait son stage pas du tout sur une stratégie internationale, mais plutôt sur une stratégie locale dans le secteur de la santé. Et elle a étudié les CPTS. Je ne sais pas si ça vous parle tous, les communautés professionnelles territoriales de santé. Et donc, on a eu envie, après la soutenance de ce stage, de ce mémoire, on a eu envie de valoriser ce travail parce qu'on y voyait, nous, en tant que chercheurs, la possibilité d'avoir une relecture de ce qu'elle avait fait avec des grilles théoriques qu'on avait dans notre laboratoire. Donc, on a fait ce travail toutes les deux depuis. Et puis, c'est la première fois qu'on le présente. Et disons même qu'on vient juste de le terminer. Voilà, donc forcément, si vous avez des remarques, c'est avec plaisir que nous les prendrons, puisque c'est quelque chose qui est en cours d'amélioration. Donc voilà. Donc on va vous présenter à deux voix. Donc on reviendra un peu sur le contexte du secteur de la santé, vous présenter un peu ce qu'est ce sujet, mais aussi ce qu'est une CPTS pour que ce soit bien clair pour tout le monde. On vous rappellera aussi quelle méthodologie on a utilisée pour mieux comprendre ces CPTS avec ses principaux résultats, en montrant aussi comment on peut avoir une relecture des CPTS, de leur mise en œuvre à partir de la grille théorique, la grille proximité de chercheurs en économie et géographie, sociologie. Et comme ça, ça nous permettra de vous apporter quelques recommandations, quelques préconisations par rapport à ce dispositif qui semble aller dans le bon sens, mais qui, dans sa mise en œuvre, pourrait être solidifié. Voilà. Alors, je te laisse expliquer.
Oui, donc nous, on est parti d'un constat, on a essayé un peu de comprendre finalement qu'est-ce que c'est actuellement la santé, le secteur de la santé, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Donc, on est vraiment parti de la base. On est parti du fait que, en fait, le système de santé français, comme il est actuellement, il a été établi en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça fait maintenant presque 75 ans qu'il est en place. Et en fait, il a été établi à la base pour répondre aux problématiques de société qu'il y avait à cette époque-là. Et donc, on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de changements sociétaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et malgré le fait que le système de santé français, il est reconnu par l'OMS comme l'un des systèmes les plus performants au monde, parce qu'il est égalitaire et parce qu'on prend en charge tout le monde, etc. Malgré ça, on s'est rendu compte que voilà, il y avait quand même quelques limites. Concernant les bouleversements sociétaux du coup, qu'on a subis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y en a vraiment trois principaux qu'on a identifiés, qui sont du coup les bouleversements épidémiologiques, avec, comme on parlait avant, du coup, le vieillissement assez important de la population et aussi l'augmentation du nombre de personnes qui sont touchées par des maladies chroniques, ce qui pose de gros problèmes de prise en charge. Il y a également des bouleversements sociétaux, technologiques, avec le boom des nouvelles technologies. Et, il a fallu en fait que notre société s'adapte à ce nouveau mode de communication, etc. Et aussi des bouleversements sociaux qui ont été assez importants, avec l'augmentation du nombre des grands précaires sur nos territoires, la fracture géographique entre les territoires urbains et les territoires ruraux qui est de plus en plus importante. Et donc on s'est rendu compte que à la fois les soignants et les patients ne sont plus satisfaits par le système qui est actuellement en place. Et en plus de ça, le système de santé français est un peu à bout de souffle financièrement. Le gouvernement est au fait de toutes ces problématiques et depuis un grand nombre d'années, il met en place des réformes. Et la dernière réforme qui a été mise en place s'appelle Ma Santé 2022, un engagement collectif. Donc il est instauré par le ministère de la Santé et des Solidarités. Et il a pour objectif vraiment de construire avec les acteurs du terrain le système de santé que l'on aura demain, donc en 2022. Le but est de vraiment placer le patient au cœur de ce système en essayant de quantifier la qualité des soins. Il repense aussi les métiers et les formations des spécialistes. Et le dernier point sur lequel on va plus se pencher aujourd'hui, qui est vraiment de réussir à articuler la ville, le médico-social, le social et l'hôpital. On a ajouté un petit peu parler des CPTS, mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est. Donc CPTS ou communauté professionnelles territoriales de santé. Elles ont été créées en 2015 à Quimper suite à la création d'une association qui avait pour but de faire en sorte que les acteurs de santé d'un territoire collaborent entre eux et se coordonnent. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Le but d'une CPTS, c'est sur un territoire défini, créer un réseau entre tous les professionnels donc de la ville, du sanitaire, de l'hôpital et du médico-social. Et que ce réseau réponde vraiment aux problématiques qui concernent vraiment le territoire sur lequel ils sont instaurés. J'ai un exemple en tête, c'est qu'on a rencontré des orthophonistes et une des orthophonistes nous a dit « J'en ai marre que tous les médecins généralistes m'envoient les enfants de 5 ans qui ne savent pas faire le son cheux. » Parce que c'est normal, en fait, à 5 ans, de ne pas savoir faire le son cheux, ils y arriveront plus tard. Et typiquement, il n'y a pas du tout de communication entre les différents corps de métier, alors que tout le monde travaille dans le même secteur. Donc c'est vraiment pour pallier à des petits détails comme ça, mais qui font perdre ça fait perdre énormément de temps aux professionnels de santé. Donc le but, c'est vraiment de fédérer et de faire circuler l'information entre eux. Donc l'ARS, c'est l'ARS c'est les acteurs du territoire qui doivent prendre l'initiative de créer une CPTS, mais l'ARS les incite quand même et leur font quelques recommandations, notamment concernant la population qui doit être couverte par une CPTS. On estime que la population idéale est entre 20 000 et 100 000 personnes, donc un territoire qui doit être homogène et qui doit être défini par la réalisation d'un diagnostic territorial. On conseille aussi, le diagnostic territorial doit plutôt être fait par les élus qui connaissent bien leur territoire et voilà. Concernant le financement, pour une CPTS qui couvrirait à peu près 80 000 personnes, on estime que le financement serait à peu près de 300 000 euros. Et pour la forme juridique, on conseille les associations parce que ça permet de prendre en compte les départs et les arrivées des professionnels de santé. Et bien sûr, il y aura une évaluation qui sera faite au bout d'un an d'exercice de la CPTS et qui sera faite par toutes les parties prenantes.
Donc notre objectif, c'était de mieux comprendre comment les acteurs pouvaient percevoir ce dispositif. Au-delà d'observer vraiment ce que c'est vraiment la perception des professionnels qui sont impliqués dans le secteur de la santé, comment le perçoivent-ils et comment le perçoivent-ils au regard justement des proximités entre acteurs. Donc la méthodologie qu'on a retenue, c'est une méthode qu'on peut appeler mixte, basée très essentiellement sur Donc une partie qualitative, je commence par ça, qui va permettre en fait justement à partir d'entretiens semi-directifs auprès d'une douzaine de professionnels de la santé, de mieux savoir comment ils perçoivent les CPTS, à quoi ça correspond, s'ils ont bien assimilé ce qu'était le concept des CPTS, comment ils considèrent que ça peut fonctionner compte tenu de la définition, quels pourraient être les risques, ce qui ne pourrait pas marcher. Et puis en parallèle, on a aussi fait une étude quantitative sur le territoire pour savoir, puisque ces CPTS qu'on a étudiés, c'est sur le territoire de Poitiers. Donc on a fait en amont une étude du territoire quantitative à partir d'un diagnostic territorial, un traitement de données sur le secteur de la santé et également une analyse documentaire pour essayer de repérer quels sont les grands acteurs clés de ce territoire, dans le secteur de la santé toujours évidemment, et puis essayer de voir comment ont évolué ces politiques, ces dispositifs avant même la création des CPTS. Donc tout ça pour en dégager des préconisations, pour essayer de voir comment ces CPTS pourraient réussir et comment on pourrait en fait essayer d'améliorer ce dispositif dans sa mise en place concrète.
Donc, comme l'a dit Marie, on a d'abord procédé à une étude quantitative pour vraiment avoir le portrait du territoire qu'on étudiait. Donc très rapidement, pour ce qui est du profil de la ville de Poitiers, Poitiers c'est un territoire qui est urbain et qui est densément peuplé, avec une population qui est pour le moment jeune pour le moment, parce que quand on fait des projections dans 10 ou 20 ans, bien sûr on se rend compte que le vieillissement de la population ça va être assez important. C'est une population qui est quand même assez pauvre sur le taux de chômage, par exemple, le taux de pauvreté, on voit qu'on est en dessous de la moyenne nationale. Et en plus, on a 4 quartiers priorité de la ville dans notre territoire. Donc, c'est un territoire assez défavorisé. Concernant l'offre de soins sur notre territoire, on a 2 acteurs principaux que sont la Polyclinique et le CHU de Poitiers. Donc en médecine, chirurgie et obstétrique, ils ont tous les deux 80% des parts de marché. Donc c'est vraiment un monopole entre ces deux gros établissements. Et ensuite, pour ce qui est du nombre de professionnels donc libéraux dans le territoire, on est partout au-dessus de la moyenne nationale. Au-dessus de la moyenne nationale, ça ne veut pas dire que c'est optimal. Et bien sûr, il manque forcément des professionnels de santé à Poitiers, comme dans toutes les villes de France d'ailleurs. Et en plus de ça, il va y avoir un nombre de départs à la retraite dans les années à venir assez affolant. Et du coup, ça va être des problématiques. C'est des problématiques qu'on garde en tête dans notre analyse.
Donc sur ce territoire, donc comme on vous l'a dit, il y a 12 professionnels qui ont été interviewés. Donc un entretien semi-directif, ça consiste à laisser parler la personne et on a adapté du coup les questions en fonction aussi de leur connaissance des CPTS. Il y avait une première question qui était sur justement les CPTS, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Si d'ores et déjà ils n'avaient rien retenu et ne connaissaient pas le dispositif, forcément on n'avait pas la même suite dans l'entretien. Donc on adapte et on fait des relances en fonction de ce que dit la personne. Dans le choix des personnes interrogées, c'est vraiment essayer d'avoir une répartition permettant d'avoir tous les acteurs de la santé, avoir une diversité, essayer de repérer tous les types de professionnels et acteurs impliqués dans le secteur de la santé plutôt que d'avoir une grande quantité. C'est aussi, comme ce sont des entretiens semi-directifs, c'est un investissement quand même en termes temporels de faire ces entretiens semi-directifs, ce qui limite le nombre, mais qui permet aussi de faire une première étude exploratoire et qui pourra être approfondie en fonction de la suite des travaux. Alors, pour maintenant en venir aux résultats, quelles sont les perceptions des professionnels quant à la mise en place d'une CPTS ? Tout d'abord, il y a quand même un premier élément qui est positif et qui montre que le dispositif va dans le bon sens. C'est que tous les acteurs, ou en tout cas 9 sur 12 des acteurs, connaissaient le dispositif des CPTS. Seulement 3 n'en avaient pas entendu parler, n'avaient pas une connaissance des CPTS. Et c'était 2 étudiantes et une qui était en profession libérale. Ça peut expliquer un petit peu cette méconnaissance. Et aussi, on a remarqué que ces 3 personnes n'étaient pas allées aux réunions proposées par les ARS qui présentent les CPTS. Donc la méconnaissance vient aussi de leur non-intégration dans des réseaux de communication ça explique assez facilement les choses. Sinon, pour tous ceux qui avaient entendu parler des CPTS, la définition retenue est celle qui existe et c'est le mot-clé de réseau, de coordination qui est bien gardés par les professionnels. Ils ont tous bien gardé ça en tête et pour certains même ont en tête réseau et coordination territoriale. Le territoire apparaît comme un élément important de la définition. Ce qu'on a pu aussi voir, c'est que tous les acteurs ont mis en évidence l'utilité de ces CPTS, une amélioration en termes d'efficacité, on aura moins de pertes de temps, meilleure communication. À tous les niveaux, on pourrait avoir vraiment des apports. Ça permettrait aussi de dupliquer l'efficacité donc, de la médecine, nouvelle médecine, plus proche de ses patients, plus en communication et qui perdrait beaucoup moins de temps. Et donc, financièrement, c'est aussi un avantage. Donc ça, tous ont vraiment bien compris ce que c'était les CPTS et son utilité. Après, on voit bien qu'il se pose des questions sur sa mise en place réelle, concrète. Comment ça va se passer concrètement? Comment on va réussir à mettre ça en place? Et là, ce qu'ils mettent en exergue, c'est d'une part des problèmes de communication entre des spécialistes. Les spécialistes sont donc sur des têtes d'épingle et quelquefois ont du mal à se comprendre les uns les autres pour pouvoir donner un diagnostic d'ensemble, et ce qui est en plus renforcé par des problèmes de communication ou de distance à différents niveaux, pas forcément que géographique. L'autre question aussi qui se pose, c'est la délimitation du territoire. On nous dit que les CPTS sont sur un territoire restreint, mais c'est aux acteurs eux-mêmes de délimiter ce territoire, et les professionnels se demandent justement comment réussir à délimiter. Donc c'est une réelle question dans son application qu'il faut absolument traiter et qui devra être éclaircie pour pouvoir mettre en place les CPTS. Enfin, peut-être l'une des questions majeures qu'il se pose, c'est l'implication, la volonté des acteurs. Parce que si sans la volonté des professionnels eux-mêmes et leur implication, les CPTS ne peuvent pas exister, puisque c'est les acteurs eux-mêmes qui doivent s'emparer du dispositif et essayer de trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette implication? Et d'autant que les intérêts des professionnels, des acteurs de la santé, peuvent être très divergents, puisqu'on a bien des acteurs qui travaillent dans le secteur public, dans le secteur privé, donc avec des intérêts assez divergents. Donc, en termes, si on relie en fait ce dispositif et notamment la perception qu'ont les acteurs grâce à une grille théorique qu'on utilise dans différentes disciplines de sciences humaines, qui est une grille proximité, développée donc par des auteurs qu'on a appelé l'école de la proximité dans les années 90. Cette école de pensée consiste à montrer que la proximité, elle n'est pas que physique, elle est aussi de nature donc non spatiale, ça peut être organisationnelle, institutionnelle, cognitive. Et ces différentes formes de proximité sont tout aussi importantes que la proximité spatiale, et on peut aussi avoir des cas où on va avoir une substitution, une complémentarité entre ces différents types de proximité. Et dans le dispositif des CPTS, il nous semblait que c'était vraiment les différentes formes de proximité qui étaient convoquées, puisque c'est basé sur une proximité géographique, mais en même temps, on voit apparaître des problématiques de proximité cognitive, organisationnelle, etc. Et c'est bien ce qu'on voit apparaître ici. Alors, on peut observer une certaine proximité institutionnelle, notamment via les ARS, les réunions. On a bien une assimilation du concept, des règles, des normes que les CPTS véhiculent. Ça, on peut avoir une certaine proximité institutionnelle des acteurs à ce niveau-là, quand même à condition que les CPTS prennent aussi en compte les règles et les mesures antérieures, les différents dispositifs antérieurs. Parce que sinon, ça peut créer un flou institutionnel justement très fort. Donc, il faut quand même bien avoir ça. Et aussi à condition qu'il y ait un accompagnement des acteurs de la santé, des élus, des ARS. Après, il y a quand même des questions qui se posent en termes de proximité cognitive. On voit apparaître un problème de communication, de spécialisation et de spécialistes qui n'arrivent pas en fait à bien se comprendre, ce qui montre l'existence d'une absence de proximité cognitive. Et pour le moment, le dispositif concrètement n'a pas prévu de résoudre ce problème de proximité cognitive, ou cette absence plutôt de proximité cognitive. Donc c'est aux acteurs de l'inventer. Et ça, dans le dispositif, on peut quand même penser qu'il va y avoir un manque. La délimitation du territoire et le fait de ne pas trop savoir si on va avoir un territoire, mais qui est donné a priori, sans qu'il ait du sens pour les acteurs eux-mêmes, on peut craindre une absence aussi de proximité géographique, dans le sens où elle ne sera pas perçue comme telle par les acteurs. Et enfin, le fait qu'il y ait ce problème d'intérêt, différents intérêts des acteurs, qui s'explique bien, comme je l'ai dit, par l'appartenance à différentes structures, ça peut entraîner une absence de proximité organisationnelle. Et on voit bien que le dispositif, de manière spontanée, n'a pas réussi à combler ces différents manques de proximité et que ça va être aux acteurs de vraiment trouver les solutions. Mais ils vont devoir, dans la mise en place des CPTS, de ce dispositif, essayer de combler. Et ils ont quand même, les professionnels quand même réfléchissent à comment pouvoir le faire et avaient une préconisation majeure essentielle, c'est celle d'un animateur de réseau, mettre en place une personne, un de leurs pairs, si on comprend bien leur discours, qui pourrait animer ce réseau et essayer de résoudre, en tout cas substituer par exemple l'absence de proximité organisationnelle par à minima une proximité relationnelle grâce à cet animateur réseau. Donc les professionnels ont évoqué ces différents éléments et donc c'est notre relecture à partir de la grille de proximité. Donc si on doit conclure, il nous semble que c'est un dispositif qui va dans le bon sens, qui a bien compris qu'il y a des problèmes de coordination territoriale, très clairement. Il y en a un, le dispositif est reconnu, assimilé, son utilité est vraiment majeure. Par contre, c'est dans sa mise en œuvre, peut-être qu'il est trop tôt aussi pour pouvoir avoir des réponses sur sa mise en œuvre concrète, mais ça interroge beaucoup les acteurs et ces interrogations montrent bien l'absence de proximité qui ne sont pas du tout prévues par le dispositif. Donc, comment améliorer la coordination territoriale via les CPTS ? Comme on l'a dit, c'est essayer d'avoir un animateur réseau. Essayer aussi, peut-être, via la e-santé, de rapprocher les acteurs de manière peut-être temporaire via des plateformes de santé où chacun pourrait être fournisseur d'informations. Il pourrait y avoir un partage. Alors tout ça aussi renvoie quand même à une seule et même question qu'on a déjà évoquée, c'est celle de l'implication. Il faudrait que les acteurs, les professionnels de la santé y voient un véritable intérêt pour s'impliquer. Et ça, ça renvoie à notre avis à un besoin d'un système d'incitation. Trouver justement quel système d'incitation mettre en place pour que ça puisse marcher. Bon, ce premier travail a évidemment des limites puisque c'est un travail avec seulement une douzaine d'entretiens. Et également, le fait d'avoir que 12 entretiens ne nous permet pas de vérifier certaines valeurs, notamment peut-être que la perception est très différente justement si on interroge des professions libérales ou plutôt des personnes qui travaillent au CHU. Il peut y avoir des grosses différences de perception. Ça, on peut le pressentir, mais on ne peut pas le vérifier avec 12 entretiens. Et si on avait un plus gros échantillon où on pouvait faire du codage et des statistiques, on pourrait justement vérifier plusieurs variables, voir si elles sont déterminantes ou non. Voilà. Tu as quelque chose peut-être ?
C'est bon.
Merci beaucoup.
Parce qu'effectivement, CPTS, je ne sais pas si ça parlait beaucoup aux personnes de l'assistance. Donc voilà.
Oui, alors merci pour votre présentation parce que je suis étonné tout d'un coup qu'on parle des CPTS, surtout ici. Alors c'est un dossier que je suis depuis un moment puisque j'ai assisté à multiples réunions de présentation avec l'ARS, donc une sur le Montmorillonnais et une un peu plus centrale là chez moi, justement à Husson. Alors les réactions des professionnels de santé dans un premier temps, des libéraux, c'est une grande résistance. Voilà, c'est quoi ce machin encore ? Après, quand on parle du concret, comme vous l'avez dit hein, tout à l'heure, à la marge, l'orthophoniste ou alors la sortie d'hôpital, parce que la sortie d'hôpital, c'est quand même quelque chose qui est très parlant, la sortie un vendredi soir avec la difficulté à domicile, etc. Donc, passer par cet exemple-là me paraissait assez intéressant. L'unité géographique, ça a été révélateur. Je suis allé à Montmorillon. Ils ont dit, bon, finalement, alors comme on a la compétence santé au niveau de la communauté de communes, ça serait bien que ça soit la communauté de communes. J'arrive à Husson, où je suis aussi dans la communauté de communes. Ils me disent, ah, ça serait bien que ça soit la communauté de communes, mais il y avait des gens du Civrésien, des infirmières à la limite, elles travaillent avec des médecins du Civrésien, enfin du Civrésien, de Jansay, etc. Donc, on s'arrête où, on commence où ? Je ne sais pas. Et puis, alors, dernière chose, parce que je n'aurais pas monopolisé la parole, je suis allé en Indre-et-Loire dans un congrès et on nous a présenté une CPTS. Alors, dans l'Indre-et-Loire, il faut savoir, c'est le premier département qui a fait des CPTS. Il y a 5 CPTS. Alors, ça a été fait parce que c'est la loi HPST hein, qui avait inscrit hein, les premiers les CPTS. Et ce qui a été super intéressant, je me suis dit, c'est eux qui ont raison. À Amboise, ils ont un hôpital de proximité. L'hôpital était en train de fermer. Tous les libéraux se sont réunis pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour garder notre hôpital. Et finalement, ils ont. Alors, ça correspond à 25 ou 30 communes. Le bassin de population, je ne m'en souviens pas trop. Mais, et finalement, ils ont écrit quelque chose. Et le cadre qui était le mieux, c'était le cadre des CPTS. Quoi. Et donc, bon, c'est possible. Je pense qu'il faut vraiment que. C'est face à la contrainte. Alors, c'est vrai que là, on nous dit, on a écrit des projets de santé sur les maisons de santé. Et puis maintenant, on nous redemande d'écrire quelque chose. Alors, un animateur, ça, c'est incontournable. Même si l'ARS, c'est pas trop... Aujourd'hui, faites comme vous pouvez. Il faut que ça soit porté par des libéraux. Un hôpital ne peut pas porter un CPTS. La clinique ne peut pas porter un CPTS, a priori. Donc, enfin, la clinique, ça pourrait être peut-être discutable. L'hôpital ne peut pas porter de CPTS, normalement.
C'est pas assez écrit nulle part que, en fait, c'est, eux, ils ne veulent pas.
L'ARS, dans sa présentation, alors c'était une présentation assez brutale à ce moment-là de la part de l'ancienne directrice. En plus, en disant, de toute façon, les CPTS, on en fera. Il en faut 3000 à échéance 2022. Si vous ne les faites pas, aux libéraux, et aux médecins, enfin, des libéraux d'une façon générale, vous leur dites, si vous ne les faites pas, on les fera à votre place, et puis vous verrez bien, quoi. C'était un peu maladroit. Ouais. Voilà. Mais autrement, je pense que c'est un outil à terme qui est certainement très intéressant. Mais c'est passionnant, ça.
Merci pour ce témoignage. D'autres remarques ? Non, mais c'est très bien. Au contraire, les témoignages sont importants aussi. Pas d'autres ? Si.
Oui, je me suis déjà présenté, mais je le refais. Maxime Verdun. Ouais, ok. En fait, j'ai du mal à voir comment aujourd'hui se traduit l'action des CPTS. Comment aujourd'hui c'est animé ? Donc, je sais qu'il n'y a pas d'animateur encore, mais comment se traduit concrètement l'animation de cette communauté ? Qu'est-ce qui se fait ?
C'est pas encore concrètement, puisque c'est aux acteurs de s'en emparer. Et c'est aux acteurs de savoir comment le mettre en place et de définir la structure juridique, définir... Donc il va falloir que les acteurs vraiment se mettent d'accord tous ensemble pour... Donc déjà, le fait qu'ils y voient une réelle utilité peut les motiver, mais il faut que maintenant, ils arrivent à tout définir pour concrètement le mettre en place. Et l'ARS est là pour un peu pousser, inciter, mais justement, ils ont aussi qui va les accompagner.
Mais typiquement, une CPTS, c'est pas du tout comme les maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est pas quatre murs et des gens. Enfin, c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile à s'imaginer parce que c'est quelque chose qui est pas physique, on peut pas le voir. Mais ça peut être. Enfin, il y a certaines CPTS qui ont instauré, par exemple, une réunion par mois à telle heure. On se donne rendez-vous. On prépare en amont un plan de réunion. On abordera ce point, ce point, ce point. On se rejoint de 20h à 22h. Et enfin, c'est vraiment ça dépend vraiment des besoins du territoire, des besoins qui ont été grâce au diagnostic territorial, ce qui en est ressorti, et des préconisations qu'ils font aussi.
Alors moi, ça m'a fait penser, ce dispositif, c'est vouloir créer de la proximité entre les acteurs, comme on le fait avec un peu les pôles de compétitivité pour l'innovation. C'est vouloir essayer de faire de la proximité. Sauf que dans les pôles de compétitivité, il y a une vraie animation. C'est presque, il n'y a que... je ne veux pas réduire les pôles de compétitivité à ça, mais il y a vraiment, justement, le pôle est là pour animer le réseau, faire que les différents acteurs se voient, organiser des petits déjeuners, organiser des rencontres sur un thème qui va intéresser tout le monde. Donc, je pense que dans l'idée, c'est toujours cette idée du rapprochement des acteurs à différents niveaux pour essayer qu'ils marchent mieux ensemble, qu'ils se coordonnent mieux. C'est vraiment sa coordination territoriale. Mais ils n'ont pas été loin parce qu'ils voulaient quelque chose qui soit suffisamment souple, pas comme les maisons, comme tu le disais, plus souple et plus adaptable aux besoins du territoire. Donc ça va dans le bon sens aussi à ce niveau-là, parce que je pense qu'il y avait des erreurs, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans les précédents dispositifs. Là, ils veulent vraiment prendre tous les acteurs et puis rien imposer. Mais le fait de ne rien imposer aussi va après vouloir dire qu'il faut vraiment que les gens s'en emparent, les acteurs s'en emparent et qu'ils proposent des choses. Et c'est pas si simple. Je pense. Ah bah oui.
Oui, ça va forcément être compliqué, mais de toute façon, on y arrivera. Enfin, je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est certainement l'idée majeure. Après, je dirais qu'on était pendant un temps, il y avait les réseaux ville-hôpital. On n'en est pas si loin, finalement. Alors, c'est beaucoup plus large. Mais par exemple, moi, j'avais un exemple avec les cardios. On avait réuni les médecins de Montmorillon et ou des alentours et les cardiologues. Les cardiologues sont venus du CHU, sont venus avec le professeur, avec c'était quatre cardios, et pour se dire, quand on a un problème cardio à notre cabinet, comment on fait? Alors, il y en a certains. Des médecins anciens, des plus âgés, on va dire, ils avaient fait leurs études avec un copain qui est devenu cardiologue, donc ils ont le numéro direct. Ouais, c'est facile, ouais, ça, des réseaux ont été créés comme ça.
C'est ça, c'est de la proximité relationnelle.
Voilà, mais ça, aujourd'hui, on l'a plus difficilement. Voilà. On l'a plus forcément. Donc, c'est la nécessité. De... Alors, par exemple, il y a des médecins qui ont découvert qu'il y avait un numéro d'accès en cardio sur les portables, il y avait un portable identifié où il y avait un médecin père qui allait répondre aux problèmes de cardio alors, en envoyant l'électro. Et ça, c'était finalement inconnu de la moitié des médecins généralistes qui étaient là.
Bah, typiquement,
et là, je pense qu'on est vraiment dans le cœur peut-être d'un jour des CPTS.
C'est sûr.
Francis Ebeke, donc voilà. Je remercie déjà ce travail qui est fait et qui peut entrer en droit de ligne en géographie de la santé. Mais je crois que quand on fait un diagnostic de territoire, il y a un bilan qui est fait. Et dès que le bilan est fait, on peut évaluer et réévaluer le travail qui a été fait. Mais moi, je crois que la question qui se pose ici, c'est au niveau le cadre juridique qui est l'association. On sait que quand on est en association, ça a été même dit à table ce midi, et c'est la démocratie, tout le monde veut faire triompher son idée, ainsi de suite. Et voilà, on a 90 personnes, il y a 90 idées, où est-ce qu'on va aller? Donc je crois qu'il faille mettre une commission dans cette organisation, dans ce cadre juridique, une commission pilote, suivi, évaluation, qui va peut-être faire des travaux et enfin de ressortir des décisions. Auquel cas on va attendre de toute la population. Et nous sommes en démocratie, chacun va vouloir faire triompher son idée. Je crois donc que le diagnostic du territoire permet aussi de créer des pôles de réflexion, des pôles de décision pour que le projet puisse aussi avancer. Un projet, il est fait pour la population, et quand il est fait contre la population, il devient donc malsain et maléfique. Donc voilà, quand on fait un diagnostic, il faudrait aussi arriver jusque-là. Quoi.
Merci. Pas d'autres questions? Peut-être pendant que Nabil prend la place, je voulais bien venir. On va enchaîner. En même temps, je pense qu'il y a une petite installation. Donc, je vais laisser la parole à Maxime, c'est ça, votre prénom? Vous nous disiez en quelques mots Traverse.
Alors, du coup, je fais partie d'une association qui s'appelle La Traverse, que j'ai contribué à créer avec des anciens camarades de master. On vient d'un master qui s'appelle Stratégie territoriale et urbaine à Sciences Po à Paris. Et donc, on a créé cette association qui a aujourd'hui 3 mois d'existence. Ça fait 3 mois qu'on travaille à temps plein là-dessus, dont l'objectif est d'accompagner des territoires dans des démarches de transition écologique et sociale. Et la santé, en fait, c'est un des axes stratégiques de notre action, puisque le but est de créer des territoires qui soient résilients, c'est-à-dire qui soient capables de faire face aux chocs à venir, aux chocs climatiques notamment, et aux chocs énergétiques. Et l'autonomie sanitaire des territoires, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important, à côté d'autres priorités que sont l'autonomie alimentaire, énergétique, économique et aussi intellectuel. Enfin, je ne sais pas si vous êtes familier des concepts de ville en transition. C'est des piliers qui sont souvent présentés comme essentiels pour avoir des territoires résilients. Et donc la santé, on y est arrivé par l'environnement, en fait. Donc c'est la santé environnementale qui nous intéresse, mais c'est aussi l'offre de soins, notamment dans les territoires ruraux, qui sont, j'ai pas précisé, mais c'est pour l'instant, notre cœur de cible, c'est les territoires ruraux, parce qu'il y a des déserts médicaux. Et qu'en jouant sur le cadre de vie, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, le cadre de vie agréable, en fait, et une porte d'entrée vers une attractivité plus importante pour les cadres de santé et pour toutes les personnes qui peuvent travailler dans ce domaine-là. Mais c'est aussi une manière d'agir positivement sur des déterminants environnementaux de santé, la pollution de l'air, le réchauffement climatique, la gestion des risques, mais également des déterminants d'aménagement urbain de l'espace public, des pistes cyclables, des trottoirs assez larges pour que les gens puissent marcher et éviter de prendre des modes de déplacement dans lesquels ils ne sont pas actifs. Un urbanisme qui donne de la place aux espaces verts, aux espaces naturels, où c'est plus agréable d'aller courir, enfin, j'en sais rien. Il y a aussi beaucoup de choses en termes urbanistiques qui peuvent agir favorablement pour améliorer la santé des habitants. Et c'est quelque chose, à mon avis, à prendre en compte aujourd'hui. À la fois pour la santé, finalité santé, et à la fois pour la finalité environnement. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà.
Si, mais si on veut en savoir un peu plus, vous êtes là et à la fin, on va terminer bientôt, donc pour échanger avec ceux qui le souhaiteront. Bon, Nabil, je te laisse le soin de te présenter, puis peut-être comment tu en es arrivé là, etc., à monter ce projet.
Bah alors déjà, bonjour à tous ceux que j'ai pas pu, avec qui j'ai pas pu parler déjà aujourd'hui. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Nabil Atsi, je suis donc le fondateur de Proxy Soins. Je travaille avec ma compagne qui est infirmière, Myriam Atifi, qui travaille à l'hôpital de Vichy au service urgence et anesthésie, un truc comme ça je crois. Bon. Et donc voilà, donc en fait aujourd'hui je porte un projet qui a pour objectif lutter contre les déserts médicaux en zone rurale. L'idée, c'est de mettre en place des cabinets médicaux mobiles pour aller dans les communes où vraiment on n'a pas de structure, on n'a pas de médecin, on n'a rien. Donc là, aujourd'hui, Proxy Soins, c'est né comment ? Proxy Soins, c'est né d'une expérience personnelle. J'ai une carrière de chauffeur routier de près de 10 ans, internationale. Et en 2014, malheureusement, j'ai eu un accident de travail qui fait que maintenant j'ai quelques problèmes de santé. Si vous avez vu, je tremble aussi un petit peu. L'idée, c'était quand j'allais voir les médecins, c'était de renouveler mon traitement. Donc je suis un patient chronique, donc c'est renouveler toutes les semaines mon traitement, aller voir le médecin, prendre des rendez-vous en amont, etc. Donc quand j'étais dans mon parcours, donc il y avait ces difficultés-là. J'étais pas seul à avoir ces difficultés. J'étais hospitalisé en centre de rééducation. Je me suis aperçu qu'en centre de rééducation, tout ce qui est aide aussi MDPH, les demandes d'aide à domicile, toutes ces choses-là, et ben les gens n'étaient pas forcément au courant de tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai pris en fait que l'idée m'est venue au départ déjà d'aider les gens dans leur aspect, dans leur accompagnement, dans les documents, etc. autour de la santé. Alors à la suite de tout ça. Après tout ça, j'ai dû faire une reconversion professionnelle. Après un bilan de compétences de 3 mois, j'ai décidé de monter un restaurant avec mes deux petits frères, et malheureusement ça s'est pas fait à quelques jours de signer le bail. Et un jour, je regardais Allo Docteur à la maison, et j'avais ce problème de qu'est-ce que je vais faire de ma vie à ce moment-là. Alors je me pose cette question, j'ai quoi comme bagage? J'ai été chauffeur pendant 10 ans. Et puis, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins, beaucoup de professionnels de la santé. Alors, je me suis dit, et j'ai levé les yeux à la télé, j'ai vu les déserts médicaux en zone rurale. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais pourquoi pas prendre des médecins, des professionnels de santé, les réunir dans un véhicule équipé, et puis aller sillonner les campagnes autour de chez moi, là-bas à Vichy. Et puis, par la suite, on a creusé un petit peu, on a travaillé, on a fait des enquêtes de terrain. Et puis aujourd'hui, je suis accompagné par pas mal de structures. Il y a l'ARS qui valide, le conseil départemental, il y a le conseil de l'ordre. Alors, nous aujourd'hui, l'idée avec Proxy Soins, c'est de créer un parcours de soins. Aujourd'hui, je parle, mais malheureusement, j'avance pas. Pardon, j'ai pas l'habitude voilà. Donc, nos missions. Nos missions, c'est prendre en charge les différents patients, donc isolés géographiquement, psychologiquement et socialement. C'est faciliter l'accès aux soins, donc en venant au plus près du domicile des patients, et diminuer les délais de prise en charge. Parce que je pars de mon expérience à moi. Les délais. Les délais, ça a plusieurs conséquences. Aujourd'hui, quand un patient il tombe malade, si son rendez-vous n'arrive pas tout de suite, son état de santé s'empire. Donc ça coûte plus cher aux patients, ça coûte plus cher à la sécu. Donc diminuer les temps de prise en charge, améliorer les conditions de travail des professionnels de santé,
organiser la répartition des professionnels sur les territoires. Alors quand je dis améliorer les conditions de travail des professionnels de santé, c'est aujourd'hui Proxy Soins va s'occuper de prendre en charge tout le travail administratif des professionnels, toutes les charges patronales des professionnels. Donc l'idée c'est de dire aux professionnels de santé, aujourd'hui on vous donne la possibilité de vous concentrer que sur l'acte en lui-même, l'acte médical en lui-même. Donc ça leur libère du temps, ça leur permet d'avoir un peu plus de moins enchaîner les patients, parce qu'aujourd'hui une consultation c'est entre 5 et 15 minutes, donc on enchaîne les patients. Donc l'idée c'est vraiment de redonner à ce système de santé français. Tout à l'heure les filles en parlaient bien, on a un super système de santé en France. Il y a des choses qui vont très bien, il y a des choses qui vont très mal, et l'idée c'est vraiment de prendre ce qui ne va pas et d'améliorer ça, de changer ça. Alors après, donc, c'est structurer et mettre en place donc, les parcours de soins. Alors, quand je dis structurer les parcours de soins, on va travailler avec trois pôles. Il y a un pôle, le premier pôle médical, donc avec des médecins généralistes, des spécialistes, on aura des dentistes, on aura des ophtalmos, il y aura des infirmiers en pratique avancée. Quand on n'aura pas de médecins généralistes, c'est les infirmiers en pratique avancée qui se chargeront de faire les ordonnances pour les patients chroniques, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, avec la pratique avancée, les médecins et les infirmiers pourront faire certains gestes du médecin. Donc renouveler des ordonnances, faire des ordonnances pour aller faire des radios, des examens, des bilans de santé, etc., etc. Le pôle numéro 2, c'est le pôle psychologique. Quand on est malade et qu'on habite dans une commune isolée, qu'on est tout seul, on a besoin de discuter. Le truc aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de la télémédecine. Et moi, je considère, je ne suis pas le seul, je considère que nos anciens, entre guillemets, hein, nos anciens ne sont pas encore prêts pour ça. Ils refusent catégoriquement d'être soignés par une machine. L'idée avec Proxy Soins, c'est d'avoir cette part d'humanité, en fait. Aujourd'hui, on a toujours un être humain qui est là pour écouter le patient. Peu importe le patient, qu'il soit jeune ou pas, hein, mais l'idée c'est d'avoir toujours quelqu'un pour écouter le patient, pour prendre le temps d'écouter le patient. Donc avec ce pôle psychologique, on va avoir des psychologues, des psychiatres, et derrière on a un pôle, mais le pôle numéro 3, le pôle médico-social. Alors le pôle médico-social, c'est tout ce qui est demande dossier MDPH. Demande AGFIP, demande préalable à la Sécu. Parce que les médecins, c'est pareil. Le médecin généraliste, souvent, il s'occupe de faire les papiers, les demandes préalables pour les transports, toutes ces choses-là, ça prend un temps fou. Et bien aujourd'hui, nous, tout ça, on va s'en occuper. C'est l'assistante sociale qui va s'en occuper. Alors, j'ai mis le conseiller en orientation professionnelle. Pourquoi ? Parce que souvent, parce qu'on ne va pas s'occuper que des personnes âgées, hein, on va s'occuper des patients chroniques, on va s'occuper des patients, des personnes âgées, des personnes handicapées, toutes les personnes qui n'ont pas de mobilité. Et donc, dans ces patients, il y a aussi des patients, comme je vous l'ai dit, handicapés ou qui le deviennent. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de handicapés en France, ça faut le savoir, tout comme la population qui vieillit de plus en plus. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, prendre un exemple, je vais vous prendre un exemple, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on a quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans ou 20 ans dans une usine. Demain, il a des problèmes de dos. Donc il ne peut plus travailler à son poste de travail. Si on ne lui aménage pas le poste ou si il n'y a pas des possibilités d'aménager le poste, cette personne-là va devoir changer de métier, va devoir changer de vie. Donc nous, avec Proxy Soins, on va vraiment mettre le paquet sur ces patients-là. Parce que c'est vraiment ces patients-là que souvent sont abandonnés. Donc l'idée du conseiller en orientation professionnelle, c'est d'accompagner les patients qui ont un moment dans leur vie, un accident et qui changent complètement de vie. Voilà. Donc, par la suite, on a des moyens qui sont mis en place. Donc, nos moyens, c'est des locaux mobiles qui sont modulables. L'idée, c'est de prendre en fait des camions de moins de 3,5 tonnes qui vont pouvoir aller dans les communes les plus isolées, donc dans les montagnes, dans des petites communes au fin fond de la forêt, je ne sais pas où. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, on va prendre des camions qui vont pouvoir s'ouvrir sur les côtés, s'élargir sur les côtés et à l'arrière. En fait, vu du ciel, vous verrez une croix. Donc, ces véhicules seront pas tous pareils. On aura des bureaux pour... pour les assistantes sociales, on aura des cabinets pour les dentistes équipés de tout le matériel, on aura des cabinets pour les ophtalmos, on aura des cabinets pour les généralistes, on aura des cabinets pour les infirmiers et les kinés. On aura tout ce qu'il faut et en fonction de la demande dans les communes, on enverra les professionnels dont on a besoin. Donc, pour pouvoir mettre en place ce système, il va falloir organiser et mettre un outil pour pouvoir prendre les rendez-vous, repérer les véhicules, où est-ce qu'ils sont, connaître les parcours, connaître les agendas, le calendrier. Donc on va mettre en place une application mobile. On est déjà en train de travailler dessus là actuellement, donc pour géolocaliser le véhicule, comme je l'ai dit, organiser les tournées. Et on va créer une association. Proxy Soins, c'est une entreprise commerciale. Et en tant qu'entreprise commerciale, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les professionnels de santé. C'est très, très réglementé. Donc, au départ, l'idée, c'était de salarier les professionnels de santé. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, les professionnels de santé, c'est avoir plus de temps, avoir une couverture médicale en cas de problème, avoir des équipes qui peuvent les remplacer quand ils ont besoin de partir en vacances. Et donc avoir moins de charges patronales, comme je vous l'ai dit au début. Donc avec l'association, en fait, avec AssociaSoins, qui a un rapport direct avec Proxy Soins, on va permettre à tous les professionnels de santé que je vous ai cités précédemment, leur permettre de rentrer dans cette association, de payer une cotisation, c'est la seule cotisation qu'ils paieront, pour pouvoir avoir accès à nos véhicules, à nos prestations, à tout ça. En fait, l'idée, c'est de dire aujourd'hui, on laisse les médecins s'occuper de leur travail. On n'a pas à leur dire comment ils doivent soigner un tel ou comment ils doivent gérer leur planning. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, vous avez une association qui va vous permettre juste de rentrer chez Proxy Soins pour pouvoir travailler. Après, les responsabilités, que ce soit sur les actes médicaux, c'est pas nous qui sommes responsables. Et ça, avec l'ARS. On a été, et les médecins aussi, on a été très clair là-dessus, et puis eux aussi, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et moi je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas me permettre de parler de choses que je ne connais pas. Moi je ne suis que patient aujourd'hui. Voilà, donc ensuite, l'objectif, vraiment, ce qu'on veut vraiment au final, donc, c'est réduire les zones référencées comme déserts médicaux, donc dans l'Allier, dans un premier temps, parce que l'Allier va nous servir de zone test. On va bientôt créer là, donc d'ici, je pense que d'ici 6 mois, on va démarrer nos premiers tests. Et si les résultats sont concluants, on va essayer de développer ça au niveau national. Donc je vous citerai tout à l'heure un petit peu les soutiens, comment ça se passe, mais donc je vais finir sur les objectifs. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est rendre accessibles les soins en général pour tous et partout. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai entendu que oui, la santé, c'est égalité pour tout le monde. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Parce que quand on habite dans un village où il y a 300 habitants, eh ben, la santé, c'est pas pareil pour tout le monde. Voilà, quand on connaît pas les lois, eh ben, la santé, c'est pas pour tout le monde. Vous voyez, donc il y a plein de petites choses comme ça. Quand on n'est pas assuré, on n'a pas de mutuelle, la santé, c'est pas pour tout le monde. Donc vraiment, on a pris en compte tous ces aspects-là aujourd'hui avec Proxy Soins. Alors après, donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, permettre aux professionnels de santé de diminuer leur charge de travail administratif, leurs coûts, afin qu'ils puissent vraiment se concentrer sur l'aspect médical. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. C'est tout à l'heure, j'écoutais aussi les filles parler de qu'est-ce qui pourrait attirer les professionnels de santé. Et ben là, on y est là. Là, on y est. Aujourd'hui, nous, les médecins, tous les professionnels que je vous ai cités, ils veulent travailler avec nous. Voilà la solution. Elle est là, la solution. Je vous expliquerai tout à l'heure le plan 2022, tout ce que j'ai écouté tout à l'heure. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Les populations concernées. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas s'occuper de tout le monde. Hein. Nous, on ne vient pas remplacer le médecin généraliste du village ou le dentiste de Poitiers. Non. Nous, on vient en plus. On vient vraiment s'occuper des personnes qui sont oubliées, quoi. Alors, on a les personnes âgées qui sont isolées, donc géographiquement, psychologiquement et socialement. Donc, les patients handicapés et les personnes à mobilité réduite, ça peut être des personnes jeunes comme des personnes âgées. Les patients chroniques, donc j'ai mis quelques exemples, diabète, hypertension, insuffisance rénale et les douleurs chroniques. Alors, moi, je fais partie des patients qui ont des douleurs chroniques. J'ai un traitement morphinique, donc un gros traitement là. Et les patients sans médecin. Quand je dis les patients sans médecin, c'est les patients qui sont sortis du système de soins parce qu'ils en avaient marre d'attendre 6 mois pour voir un dentiste. Les patients qui se retrouvent sans médecin parce que le médecin est parti à la retraite, il n'a pas été remplacé. Et les patients qui arrivent dans les régions, qui viennent d'arriver dans la région. Donc aujourd'hui, ce qui est récurrent, c'est les médecins, ce qu'ils nous disent beaucoup, c'est on ne peut plus accepter de patients. Un médecin aujourd'hui, il est entre 1000 dans une commune de 6000 habitants. Il faut compter toutes les communes qui sont autour. Un médecin aujourd'hui généraliste, il est entre 1200 et 1600 patients. Sur cette moyenne, on compte entre 500 et 300 patients chroniques. Donc c'est énorme, énorme. Alors vous imaginez que si nous, demain, les médecins orientaient leurs patients chroniques chez nous, eh ben, ça fait 300 places pour de nouveaux patients. Pour les patients qui arrivent dans la région, pour les patients qui se retrouvent sans médecin parce que le médecin est parti à la retraite. Donc vous voyez, en fait, on a travaillé avec les professionnels pour trouver la solution la plus adaptée à un assez professionnel là. D'accord ? On n'a pas trouvé la recette miracle pour tous les professionnels de santé, mais on a trouvé la recette pour ces professionnels-là. Et maintenant, on a rajouté les kinés, c'est récent, c'est très très récent ça. Alors, les partenaires. Là, je vous en ai mis quelques-uns parce que ça tient pas tout. Hein. Ça tient pas tout. Et là, je vous en ai mis d'autres. Alors, on a l'Agence régionale de la santé de l'Allier et celle de la Meuse, récemment. On a AG2R La Mondiale et Malakoff Médéric. Alors ça, ce que je disais tout à l'heure, j'en parlais avec Jackie, mais je suis heureux de vous annoncer qu'on est les premiers en France à débloquer des financements par un tel groupe comme AG2R La Mondiale, alors qu'on n'est pas encore créé. On ne sommes qu'un projet aujourd'hui, et AG2R La Mondiale nous prend en charge toute la partie démarrage. Donc aujourd'hui, on est fiers de ça. Et c'est pour ça que le fait d'avoir deux concurrents sur le même projet, ça aussi, c'est énorme. C'est très, 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 c'est très, très fort. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les personnes avec qui on travaille, les personnes que j'ai rencontrées. C'est très, très, très fort. Donc, Malakoff Médéric qui va nous aider financièrement sur tout l'aspect développement. On a HUP Entrepreneur. En fait, HUP Entrepreneur, c'est un peu grâce à eux aujourd'hui que je suis devant vous. Parce qu'il y a un mois, je suis venu représenter HUP. HUP, c'est une association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap partout sur le territoire français. Cette association, elle a été créée par Didier Roche, qui est le directeur des restaurants dans le noir à Paris. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces restaurants. Vous mangez dans le noir. En fait, ce monsieur est aveugle. Il est tombé aveugle à 6 ans. Et puis, pareil, donc il a malheureusement, dans son parcours, il a été discriminé par rapport à sa situation. Et puis, en tant qu'entrepreneur en situation de handicap, et puis, il a réussi à contourner un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, il a 10 entreprises. Il aide des entrepreneurs qui sont dans la même situation que moi. Aujourd'hui, c'est mon mentor. Et je suis fier de vous annoncer tout ça, parce que récemment, j'ai gagné un trophée à Paris. Coup de cœur du jury, j'ai gagné un autre. Enfin, le même jour, j'ai gagné le premier prix pour le coup de cœur du jury. Donc voilà, c'est HUP. Vraiment, ils sont là. Ils soutiennent vraiment les entrepreneurs qui en situation de handicap. Et aujourd'hui, c'est la référence en France. C'est eux qui travaillent avec la GFIP, avec la maison départementale, tout ça, avec le gouvernement, c'est eux qui travaillent avec eux. C'est la référence. Ensuite, on a le conseil départemental de l'Allier, on a Vichy Communauté, la chambre du commerce et de l'industrie, BPI France qui va financer la partie recherche à hauteur de 30 000 euros. On a les magasins boulangers, je ne sais pas si vous connaissez les magasins boulangers. Donc lors des trophées HUP le 4 novembre dernier, comme je vous ai dit, j'ai gagné un trophée et le premier prix. Le premier prix, c'était une grande télé 4K qui m'a été remis par le directeur boulanger pro pour mettre dans notre première salle d'attente. Donc on était très fiers ce jour-là. Hein. C'était super de recevoir ce prix. Et donc il a décidé de nous fournir, en fait, de nous accompagner, de fournir tout le matériel informatique pour nos bureaux. Donc on est très très content de voir qu'aujourd'hui, des groupes comme ça ont su faire la part des choses aussi, parce que chez nous, chez Proxysoin, il y a certaines valeurs. On n'est pas une machine Afrique, on sera jamais une machine Afrique. On n'est pas venu faire un coup, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas une start-up. J'aime pas ce mot start-up, parce que start-up, pour moi, c'est une entreprise qui va marcher 2 ans, bien, 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 et puis dans 2 ans, on va la vendre à un grand groupe et elle va se faire avaler. Nous, aujourd'hui, avec Proxysoin, c'est pas ça. Avec Proxysoin, le but, c'est qu'on devienne la référence en France pour tout ce qui est pris en charge dans les milieux ruraux. Vraiment, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que Proxysoin et Associa Soin soit vraiment les structures qu'on appelle quand on a besoin de mettre en collaboration les professionnels de santé, de mettre en relation les structures, les acteurs de la santé, et pour mettre en relation les patients avec les professionnels de santé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On doit être à la fin. Il y a encore beaucoup de choses, mais là, j'ai essayé de vous présenter globalement Proxy Soins. On va bientôt créer. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Je suis là encore un petit moment. Voilà, donc je vous remercie à tous de m'avoir écouté.
Merci Nabil. Est-ce qu'il y a des demandes ? Oui.
J'avais juste une question pour bien comprendre. Comment, donc j'ai bien compris que c'est pour aller vers les populations qui seraient isolées à différents niveaux. Mais comment, du coup, vous allez les chercher ? Vous tapez à leur porte ?
Ah, non, non, oui, je vais expliquer. Alors, en fait, ce qu'on fait là, actuellement, c'est qu'on répertorie les patients en amont. On répertorie, donc on travaille avec les mairies. Les patients, non, on répertorie les patients qui ont besoin de nous. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas de... Comme je l'ai dit, les personnes âgées qui sont dans la commune telle, à la mairie, ils savent ce qu'on est en train de faire. Donc, la mairie explique ce qui va se passer. Donc, la mairie est en train d'organiser, répertorier les patients. Et ensuite, nous, on va les mettre dans l'application. Et donc, dans cette application, chacun aura son compte. Et donc, sur cette application, ils pourront organiser leur rendez-vous, prendre leur rendez-vous, avoir même envoyer des messages aux professionnels de santé s'ils ont besoin d'informations. On va organiser, il y aura les circuits, on aura tous les circuits qui seront définis, qui seront prédéfinis sur cette application. Donc vraiment, on fait tout en amont, on a un listing et on envoie les véhicules en fonction de nos demandes. C'est pour un temps donné, nos véhicules seront dans la commune pendant un temps donné. Voilà.
Francis Ebeke, j'admire le projet. Il y a 20 ans, quand je créais un tel projet au Cameroun, j'avais aussi le zèle, le dynamisme que vous avez, et j'avais nommé ça la médecine mobile. Aujourd'hui, en France, la poste le fait déjà. La poste se déplace avec une voiture, il y a presque tout. Et voilà. Mais moi, la question que je me pose, vous avez le financement. Monsieur le maire disait tout à l'heure, en tant qu'élu, il disait que l'argent peut avoir de l'argent. Même si on propose de l'argent aux médecins, ce n'est pas ça. Il fallait proposer quelque chose qui accroche. Je crois que nous sommes dans le temps court. En géographie, il y a le temps court, il y a le temps long. Et dans un projet, il y a les projets à court terme, à moyen et à long terme. Donc tout ça devrait être étudié. Mais moi, la question que je me pose, c'est celle des médecins. La France qui, l'État, les pouvoirs politiques qui ont les moyens, peut-être plus que vous, n'arrivent pas à solutionner la question des médecins. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a rareté des médecins, comment est-ce que ce projet va trouver son aboutissement au temps long, hein? Temps long, parce que là, tant que ça va encore, les financements, quand le robinet coule encore, ça va, on peut boire de l'eau. Quand le robinet tarit, on commence à chercher la source d'eau, on va même boire l'eau des marigots. Donc le temps long, c'est celui-là là où je vous interpelle, quoi.
Bon, alors déjà, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet. Alors si les professionnels ou si les personnes, les acteurs qu'on a mobilisés n'étaient pas emballés par le projet, n'étaient pas prêts à s'investir dans le projet, on m'aurait dit arrête tout de suite. Donc là, au bout de 2 ans déjà, c'est qu'il y a des résultats. Alors, le truc avec les médecins aujourd'hui, c'est que, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est qu'on leur a trop demandé. Un médecin aujourd'hui, tous les médecins qu'on a, enfin moi qui est près de chez moi, on leur dit où est-ce qu'ils doivent s'installer, comment ils doivent travailler, comment ils doivent payer leurs impôts. Bon, voilà. Donc, il y a un moment où on peut plus demander aux personnes de faire des efforts. Parce que tout à l'heure, vous parliez du gouvernement. Le gouvernement, il ne fait pas d'efforts. Il ne fait pas d'efforts, le gouvernement. Quand on voit que la pratique avancée a été ouverte, est ouverte dans une ville ou dans un territoire chaque année, on n'en ouvre qu'une ou deux, il n'y a pas d'efforts. Donc aujourd'hui, la pratique avancée, c'est une solution pour les professionnels de santé. La pratique avancée va permettre à ces professionnels de santé de se répartir un peu les tâches. Donc moins de travail pour les, médecins généralistes, et puis ils peuvent déléguer ce travail aux infirmiers en infirmiers en pratique avancée. Donc la bonne nouvelle chez nous, c'est que pendant un an, je me suis battu avec l'ARS, et bon, ça a été un peu c'est difficile, mais bon, on a réussi. Là, ils ouvrent la pratique avancée pour les infirmiers à Clermont-Ferrand. C'était pas prévu. C'était prévu Saint-Étienne, mais c'était pas prévu Clermont. Là, ils l'ouvrent. Donc quand il y a des choses comme ça, eh ben, le gouvernement, l'ARS, tout ça, eh ben, ils ont la volonté, ils mettent le paquet. Donc aujourd'hui, je vous dis, ben, là, ils sont en train de mettre le paquet sur la pratique avancée. Le problème avec la pratique avancée, parce que ce n'est pas non plus tout beau, hein, tout ce que je vous raconte, ce n'est pas non plus... La pratique avancée, le problème, c'était que quand on dit qu'un infirmier peut faire certains gestes du médecin, le danger, c'est que ça ubérise un peu le système. Pourquoi ? Parce que quand on se dit que ben, on va faire certains gestes du médecin, eh ben, on va faire plus de patients. Donc qui dit plus de patients, dit plus de sous. Donc qui dit plus de sous, dit le travail un peu bâclé, quoi. Donc l'idée, c'est de structurer ça, c'est de limiter ça. Donc nous, notre rôle, il est là. Proxy soins, c'est pour ça. Proxy soins, il existe pour structurer tout ça, pour empêcher que le système de ce soin s'ubérise. Le gouvernement voulait ubériser le système. Et moi, le Conseil de l'Ordre, aujourd'hui, s'il dit qu'on est l'entreprise qui va permettre la transition pour les 10 prochaines années, pour la médecine en zone rurale, c'est qu'il y a un truc. Vous voyez ? C'est tout ça, là, on a pas fait, c'est pas un projet qu'on a pas mûri, qu'on n'a pas travaillé et qu'on a fait tout seul, avec ma compagne. Au contraire, aujourd'hui, on est plusieurs sur le projet. Il y a 4 professionnels de santé qui ont rejoint le projet. Il y a ma compagne, comme je vous dis, qui est infirmière. On a déjà l'équipe de comptables qui va s'occuper de gérer la comptabilité des professionnels de santé. On est en train de recruter les secrétaires médicales. On a la conseillère en orientation professionnelle. On a l'assistante sociale qui bientôt va arriver. Donc, et ça, l'assistante sociale, elle travaille à la sécurité sociale en ce moment. Et cette dame-là, elle s'occupait de moi à l'époque quand j'ai eu mon accident de travail. Et ses conditions de travail se sont détériorées. À son niveau, ce qu'elle faisait avant, c'est plus du tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, en fin de compte, chez Proxy Soins, elle s'est rendue compte que ben, les valeurs qu'elle avait quand elle a commencé, eh ben, elle les retrouve. Vraiment, chez nous, c'est la proximité qu'on va mettre... qu'on privilégie, c'est la proximité, c'est la collaboration, la coordination entre les professionnels de santé et tous les acteurs de la santé. Et récemment, j'ai aussi rencontré Madame Cluzel, donc qui m'a remis le trophée. J'ai rencontré Monsieur de Normandie. Et à l'époque, c'était juste une semaine avant que le président parle, Monsieur Macron parle du plan santé 2022. Et donc là, le Conseil départemental de l'Allier a proposé d'intégrer Proxy Soins dans le plan santé 2022. Donc, il y a vraiment... Il y a tout qui va dans le sens de Proxy Soins aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, le seul frein que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est un projet ambitieux. C'est un projet qui ne se fait pas en 2 jours. Il y en a qui auraient aimé que je le fasse en 6 mois. Mais si je fais ça en 6 mois, dans 2 ans, on coule, quoi. Et on trouve pas des vraies solutions. Parce que nous, aujourd'hui, on réfléchit déjà à comment ça va se passer dans 10 ans, à qu'est-ce qui va se passer quand les personnes âgées, ben, on en aura un peu moins, celles qu'on avait au début, et puis qu'on aura un peu plus de jeunes. Donc là, il va falloir intégrer la télémédecine, donc toutes ces choses. Donc on est déjà en train de travailler sur l'évolution. Donc voilà, donc moi, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est hyper fiers de ce qu'on est en train de faire. On a des retours exceptionnels, on a l'argent est là, les soutiens sont là, la solution, elle est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en place. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était un peu long. Hein.
Non, mais merci pour votre présentation. Et puis, ben, j'admire votre dynamisme. Et on le sent bien que vous portez ce projet avec beaucoup d'énergie, ce qui est bien. Alors, moi, je dirais 2 mots de la pratique avancée. Parce que c'est quelque chose, j'étais infirmier de métier à un moment. La pratique avancée, il faut savoir qu'elle ne s'est pas développée, simplement c'est les médecins qui n'ont pas voulu. Hein. Donc voilà, moi je reste toujours très vigilant. C'est pas, je suis pas en train de comment dire,
non, non, ce que
de
je dis décrire. Pas faux, mais...
je suis toujours très très prudent quant aux déclarations des conseils de l'ordre.
Ouais.
J'ai trop vécu.
Moi aussi, oui.
Voilà. ils sont toujours remplis de bonnes intentions. Après, on freine au maximum. La pratique avancée, c'est pas quelque chose de nouveau. On revient, sur une formule de médecine qui existait il y a déjà maintenant. Monsieur Bovary était officier de santé. Monsieur Bovary faisait de la santé en milieu rural et il était rémunéré avec un poulet une fois par semaine, une douzaine d'œufs, etc. Et après, on avait les universitaires qui faisaient de la médecine. Donc aujourd'hui, on revient un petit peu à ce fonctionnement-là, qui est peut-être quelque chose de positif. Après, c'est vrai que je partage un petit peu votre réflexion, c'est-à-dire, à terme, pour le développer sur tout un territoire, comment vous allez faire pour trouver les médecins, quoi. C'est ça. Alors, même si aujourd'hui, j'ai bien compris que votre impact, aujourd'hui, dans l'Allier, vous avez déjà des contacts. Après, je dirais, ce qui nous manque aujourd'hui, on n'aurait pas de problème de désert médical si on avait des médecins, quoi. Enfin, c'est un peu couillon ce que je dis, mais si on avait des médecins, on n'aurait pas ce problème, quoi. C'est toute la difficulté, parce que on sent bien, moi juste à mon niveau, puis bon, mais on sent bien que qu'on mette n'importe quel processus, ce qui nous manque à chaque fois,
c'est le médecin,
quoi.
Ouais. Voilà, la question est bonne parce que bon, c'est vrai que si on n'a pas les médecins, ça marchera pas. Bon, alors nous aujourd'hui, on a remarqué aussi que les médecins qui travaillent en zone rurale pendant 20 ans, qui ont fait toute leur carrière et qui vont partir à la retraite, ils n'ont pas la même façon de penser, la même façon de travailler que les nouveaux médecins qui arrivent là aujourd'hui. Donc nous aujourd'hui, on va chercher les médecins à la sortie de l'école. Donc on prend contact avec les doyens et puis donc on explique le projet et donc on intègre les étudiants une fois qu'ils sont sortis. On a même l'opportunité d'intégrer des internes. Donc on va aller chercher à l'école, à la sortie de l'école. L'idée c'est d'aller les chercher le plus tôt possible. Et à côté de ça, on garde sous le coude. C'est un peu vulgaire comme je le dis, mais on garde sous le coude certains médecins qui partent à la retraite. Pourquoi ? Parce que la ruralité, c'est spécial, la médecine en ruralité, voilà, c'est pas tout le monde qui est capable de la faire. Donc nous, on a l'intention de faire avec les médecins qui partent à la retraite des genres de formations pour préparer en fait les nouveaux médecins qui arrivent à leur expliquer un peu comment sont les conditions de travail dans nos communes. Donc en fin de compte, on a des médecins qui sont prêts à passer le flambeau à des nouveaux médecins. Alors après, on ne compte pas que sur les médecins. On a des infirmiers, surtout les infirmiers libéraux. Alors les infirmiers libéraux, ils sont à fond. On nous appelle tous les jours parce que pour eux, la plupart du temps, ils font beaucoup de porte-à-porte et la plupart du temps, ils sont dans leur voiture. Donc pour faire 12 patients aujourd'hui dans un périmètre de, je sais pas, 50 km, ça leur prend, au lieu d'être une demi-journée pour nous, eux, ça leur prend une journée. Donc, il est là, en fait, l'intérêt, c'est vraiment de regrouper certains spécialistes, certains professionnels. On n'aura pas tous les médecins généralistes, on ne peut pas le faire. Ça, moi, je peux pas me permettre de dire qu'on va avoir tous les professionnels de santé. Non, c'est pas le but. Vraiment, je vous dis, on vient en plus. Nous, on vient juste compenser des lacunes. Vous voyez ? Donc, on aura quelques médecins généralistes. On n'a pas besoin d'en avoir 15. Hein. Il nous en faut 5. Si ces 5-là, on arrive à les faire tourner sur toute la région Auvergne, on est bien. Après, à côté de ça, on a des pratiques avancées. On a des infirmiers libéraux. Donc, eux, ils font déjà énormément de travail à côté de ça. Donc, en fin de compte, les médecins généralistes, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, nous, c'est qu'on peut moins compter sur les médecins généralistes comparé à avant. Vous voyez ? Avant, on comptait que sur eux. Maintenant, c'est moins le cas. Et je pense que ça, quand nous, on va les voir et qu'on leur dit ça, déjà, là, ça les... Ils appréhendent moins, en fait, ce qu'on va leur dire. Vous voyez ? Parce qu'ils ont compris que nous aussi, on a pris en compte leurs soucis. On a pris en compte leur situation. On a pris en compte leur histoire. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu répondre clairement à votre question. Ouais.
De toute façon, vous pouvez continuer à échanger, puisque...
Oui, voilà, je
suis
encore
ici,
là.
Soit dans le hall d'accueil de... Enfin, à Cafette.
Encore
donc
là.
S'il n'y a plus de questions, il peut y en avoir.
Oui.
Cécile n'a peut-être pas encore découvert. On travaille énormément avec la FNAT, Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est forcément. Enfin, en tout cas, ils sont essentiels. Enfin, très très dynamiques au niveau départemental pour accompagner justement les gens qui ont des handicaps liés au travail ou pas liés au travail d'ailleurs.
Ouais, ouais. Tout comme Cap Emploi, tout comme la GFIP. Ça, c'est des structures avec qui nous, on va travailler sur l'aspect médico-social en fait. On va vraiment prendre ce travail administratif. Pour faciliter vraiment, parce que je vous dis, quand on est handicapé du jour au lendemain, il y a beaucoup de choses. Quand on a un accident de la vie, puis que notre vie elle change, il faut prendre le temps d'assimiler la chose. Donc les papiers, on n'a pas forcément envie de les faire. Donc tout ça, on l'a pris en compte, je vous dis, par rapport à mon expérience. Et aujourd'hui, tout ça, on le met en place. Et voilà, quoi, c'est cool, ça le fait.
Merci voilà. À tous, merci à toutes.
Merci à tous de m'avoir écouté.
D'avoir participé. Au fond, à cet atelier de réflexion, hein, parce que c'est toujours un peu ça. Donc, comme je vous le disais, pour le 2020, il n'y a pas de. Avant les municipales, il n'y a pas trop de table ronde. Hein, c'est un moment. Bon, on n'est pas en congé pour autant. Mais en même temps, il y a tout un programme de petites animations, de petites rencontres créatives dans l'entreprise. N'hésitez pas pour certains. Et puis, des informations qu'on fait circuler par ailleurs sur le net. Et alors, cette séance est enregistrée, tout est enregistré. Aurore vous enverra les liens. Et en même temps, on a aussi un système de vidéo, puisqu'on a fait en vidéo à la fois Nabil et à la fois Brice Lopez. Donc on peut retrouver aussi tout ça. Et c'est des vidéos anciennes aussi qu'on peut avoir sur certaines tables rondes que nous avons organisées depuis quelques années. Voilà. Merci à vous.
On est sur les réseaux sociaux. Voilà, si vous voulez nous suivre, bientôt on va créer le site internet. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis voilà. Donc je vous remercie vraiment à tous de m'avoir écouté.
Merci Nabil. Et bon week-end à vous. Et puis comme on ne se verra peut-être pas avant les fêtes de fin d'année, je vous souhaite de bonnes fêtes et à l'année prochaine.